Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce stream extraordinaire. Bonjour, bienvenue les petits amis. Est-ce que tout le monde va bien? Comment ça va? Ça roule ou quoi? On est comment? Il y a pas backseat cette semaine. Donc c'est relâche, c'est détente, c'est tranquille. Ça va. On reprend la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, backseat revient. J'ai toujours pas mis le chat. Il est là. Il est beau. Merci Grantoine 12. Merci également Neros. Merci Shlogan. Merci James. Merci. On dort où après l'émission Backseat et qu'on vient de loin? Merci Davidou. Où est-ce qu'on dort après Backseat? Pas sur mon canapé parce qu'il y a eu Jules. Tu peux chercher sur le Discord de Backseat. Sur le Discord de Jean Massier, sur mon Discord. Voir s'il y a une âme charitable parisienne qui peut t'héberger. Tous chez Jean, on s'entasse. Allez, qui est-ce qui prend la baignoire? Qui n'a jamais dormi dans une baignoire? Ça va, on l'a tous fait. Oh là là. Merci Tifédor. Bonjour, j'ai l'habitude de regarder les replays en x1,5. Ça me perturbe, j'ai l'impression que tu parles au ralenti. T'es con. Je prends le lavabo. Ouais, vas-y. Parle plus vite, s'il te plaît. Ouais, je sais, faut que j'accélère. D'ailleurs, hier soir, j'ai animé un débat pour les écologistes, pour le parti des écologistes qui m'ont proposé d'animer un débat. Débat qui opposait Marine Tondelier et Walid Mouali, qui sont les deux candidats déclarés pour représenter les écologistes à la primaire qui sera organisée par l'Union Populaire 2027, là, le nom de leur truc. Et une sorte de pré-primaire, si vous voulez. Et du coup, j'ai animé le débat entre les deux. Et quand Marine Tondelier, elle parlait, à un moment, je me suis dit, putain, mais elle parle en x2, en fait. Bon, Marine Tondelier, quand elle s'y met, elle débite. Ça va à une vitesse. T'es en mode... Hop. Qui a gagné? De quoi? Le débat? J'en sais rien. Bah ça, c'est les électeurs écologistes qui décideront. Hein. C'est les écolos qui vont voter. Hein. C'est Marine, pas le temps de lier. C'est ça. Ça change de Bayrou. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Effectivement, c'est un autre rythme. Marine Tondelier, elle sait parler très très vite. Merci Thibaut. Du coup, voilà, le débat a duré une heure. Et normalement, le replay devrait arriver sur YouTube. Enfin, c'est pas sûr. Ils doivent encore prendre des décisions et tout. Tout ça, c'est le comité d'organisation qui décide. Je sais pas qui c'est. Je veux pas le savoir. Et vraiment, ça vous intéresse. Mais c'est vraiment un truc interne pour les écolos, quoi. C'est un truc interne au parti, quoi. Le t-shirt, c'est la colombe de Picasso. Le t-shirt, c'est la fête de l'Huma. C'est le t-shirt de la fête de l'Huma. Bisous, l'Huma. Des bisous. Je connaissais pas l'autre candidat. Tu peux nous le présenter, s'il te plaît. Walid Mouali n'est pas quelqu'un de très connu. C'est un militant écologiste depuis des années. En Ile-de-France, il a grandi à Nanterre. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur Walid Mouali? Il a des convictions, il est un peu plus proche de la gauche de rupture que Marine Tondelier, on peut dire ça comme ça si vraiment on veut s'amuser à les répartir. Mais enfin bon, comme le disait Walid lui-même hier, Marine et moi on est dans le même parti, donc on est quand même d'accord sur l'essentiel. C'est pour... voilà. Et il veut plus de consultations des militants. Est-ce que tu as été rémunéré? Oui, faut que j'envoie la facture d'ailleurs. Quand sont les élections internes des Verts? Alors, je ne sais pas à quelles élections tu fais référence, mais là, il y a une élection qui va opposer Walid Mouali et Marine Tondelier pour savoir qui va représenter les écologistes à la primaire. Le vote des militants se fera début décembre. On aura les résultats le 8 décembre. Du coup, Sandrine Rousseau n'est pas candidate cette année. Sandrine Rousseau n'est pas candidate à la désignation par les écologistes du ou de la candidate pour la primaire. Si Sandrine Rousseau veut se déclarer candidate à la primaire, elle le fera hors parti. Et elle sera pas soutenue par le parti. Voilà. Donc ça n'empêche pas, hein, elle peut quand même le faire, mais. Tu as joué au Pujadas, tu les as séparés comme Glucksmann et Zemmour, ou c'était civilisé? Non, non, c'était très très civilisé. Bah, encore une fois, ils sont dans le même parti, etc. Ce PRX, ils sont d'accord sur tout, mais ils sont dans le même parti. C'était très très civilisé comme débat. Et putain, j'ai regardé ce matin, là, du coup, j'ai pris du retard, mais j'ai regardé le débat Glucksmann-Zemmour. Ça y est, j'ai rattrapé mon retard. Alors, je dirais pas que je suis content de l'avoir fait. Putain. Non, mais Zemmour, mais Zemmour, mais putain. Mais le niveau de racisme décomplexé. Et à un moment, y a dans le public du débat, il y a une femme voilée, une jeune femme voilée, et Zemmour prend à partie la meuf. En disant que si elle porte le voile, c'est parce qu'elle a un projet politique de remplacer les chrétiens. Enfin, mais le niveau de dingue. C'est incroyable. Enfin, bref, c'était pas un grand débat. C'était pas du tout un grand débat. C'était pas très intéressant. On n'a pas appris grand-chose ni sur l'un ni sur l'autre. Bon, voilà. Je suis pas. Pareil, j'ai regardé. Avant ça, j'ai regardé le Jean-Luc Mélenchon. Comment il s'appelle? Ah putain, Duhamel. Alain Duhamel. J'ai regardé le débat Duhamel-Mélenchon. Pareil, pas très intéressant, on n'a rien appris. Ça dure une plombe. Ils sont vieux, les deux. Hein. Ça m'a un peu sauté au visage en les regardant. J'ai fait putain. Ouais, ça tape. Discussion de vieux, bah un peu, ouais. En plus, ils avaient des refs historiques, genre ils retournaient au XXe siècle et tout, en 81 et tout. Oh. Excusez-nous, hein. Mais bon, c'est pas grave, je l'en veux pas, je m'en fous. Je trouve fou que Glucksmann, il ait fait très peu de propositions alors qu'il est déclaré candidat depuis un an bientôt. Il n'est pas candidat, Raphaël Glucksmann. Il n'est pas déclaré candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs, il a refusé à nouveau de le faire sur le plateau d'LCI, quand Pujadas lui a posé la question. Quand Zemmour a parlé de la Picardie, j'ai pensé au Fatal Picard. J'ai pas compris pourquoi il a parlé de la Picardie. Ah si, à un moment, il a parlé de la Picardie en disant « Ouais, la Picardie, c'est la France, d'accord? Il y a des cathédrales, c'est l'histoire de France. » Ah ouais, putain. Ouais, d'accord. Glucksmann fera la primaire avec Attal et Édouard Philippe. Alors d'une part, il n'y aura pas de primaire entre Attal et Édouard Philippe, parce que je pense pas. Et d'autre part, Glucksmann, non, il n'est pas candidat à la primaire, ni celle de la gauche, ni celle du centre, si elle existe un jour. Je pense que Raphaël Glucksmann va être candidat en son nom propre à l'élection, point barre. Hein. Il ne va pas passer par une primaire. Hein. Est-ce qu'on aura une primaire du centre et du centre droit? Bah justement, c'est pour l'instant, je n'entends rien qui aille dans le sens de l'organisation éventuelle d'une primaire chez ce qu'on pourrait appeler les macronistes au sens large, pour désigner une candidature. Je pense que ça va finir avec deux candidatures, une candidature officielle soutenue par Emmanuel Macron et une candidature dissidente, probablement celle d'Édouard Philippe. Glucksmann s'empêtre avec Zemmour, il fera quoi avec les autres? J'ai pas trouvé que c'était empêtré avec Zemmour. Glucksmann, en même temps, c'était un débat tellement absurde entre deux personnes antagonistes que, quand même, un peu compliqué de. Enfin, personne n'a gagné ce débat. Hein. C'était un peu nul comme débat. C'était pas très intéressant. Ils s'envoyaient des fions dans la gueule, du mépris et tout. Oui, bon, d'accord. Merci Necra63. Il a été nul, Glucksmann, Jean. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si t'y tiens, il n'y a pas de problème. Il était mauvais, Glucksmann, surtout sur le racisme de Zemmour, il n'a pas su dire grand-chose. Bah, il l'a renvoyé à son racisme, sur la vision rance d'une France univoque, d'une opposition des catégories les unes face aux autres, pour provoquer une guerre civile, enfin je sais pas, je. En même temps, tu veux répondre quoi? Tu veux répondre quoi? Zemmour, il n'a pas dit grand-chose de pertinent. Non, après, ce que moi je juge pertinent, il y a peu de choses que Zemmour les dise, mais l'opposition. Enfin non, je veux dire, le discours de Zemmour, c'est un discours obsessionnel. C'est un discours obsessionnel sur l'islam. L'islam qui est une nation, qui a un projet politique de conquête, qui veut remplacer les Français chrétiens. Enfin, une fois qu'il martèle son truc. Regarde le replay rhétorique de Viktor Ovich, il conclut que Glucksmann a été mauvais. Ah bah si Clément conclut que Glucksmann a été mauvais, je vous présente toutes mes excuses. Je suis dans l'erreur. Glucksmann a été très mauvais, effectivement. Ah non, si c'est Clément qui le dit, pardon, je savais pas. Non, non, mais je savais pas. Moi j'obéis, hein, oulala. Merci de m'avoir transmis les éléments de langage. Est-ce que finalement le plus simple, c'est pas de refuser tout débat avec Zemmour, vu que ça mènera jamais à rien? J'en sais, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est une bonne question, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que c'est utile de débattre face à Zemmour? Ça fait des millions d'auditeurs, certes. Est-ce que c'est utile pour autant? Moi, j'en sais rien, je suis pas candidat à l'élection présidentielle, donc c'est facile pour moi de juger de loin comme ça, en disant ouais, non, faut pas débattre, quoi. Et pour ce qui est du reste, j'ai trouvé que Raphaël Glucksmann sortait assez peu de son domaine de prédilection et de confort, sans doute, que sont les questions européennes et les questions de droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a compris que Raphaël Glucksmann était opposé à Vladimir Poutine, à Trump, à Xi Jinping, à Viktor Orban, etc. Ça, on l'a compris. Mais en fait, il ne parle que de ça. Sauf quand on lui pose des questions précises sur des sujets particuliers et tout, mais spontanément, il parle de ses sujets de prédilection. Et c'est vrai que Glucksmann, il est connu pour ça, le combat démocrate, le combat pour les droits de l'homme, etc., etc. Ça, c'est bon, on a compris. Si Raphaël Glucksmann veut présenter une candidature à l'élection présidentielle, il va être obligé de sortir de cette zone de confort pour aller s'exprimer sur d'autres thèmes. Et là, moi, c'est pas ce que j'ai vu, quoi. Bah, c'est comme face à Zemmour d'ailleurs. Face à Zemmour, il renvoie Zemmour dans les cordes en lui disant de toute façon, vous êtes l'ami de Poutine, vous êtes l'ami d'Orban, vous adorez quand la France essuie des défaites et des échecs. C'est ce que vous préférez, vous détestez la France parce que vous êtes le pote de Vladimir Poutine, etc. Bon. Oui, alors entre autres, c'est vrai. Est-ce que c'est le meilleur argument? Est-ce que c'est celui qui est le plus pertinent, qui touche les gens? Je suis pas sûr, quoi. Il y a Baxit ce soir? Non, non, il n'y a pas Baxit ce soir. Pas sûr que Glucksmann ait bossé au-delà des postures. Non, mais moi, je crois que Glucksmann s'insère dans la préparation de sa candidature à l'élection présidentielle, l'élaboration d'un programme, etc. Mais justement, l'élaboration d'un programme, ça nécessite d'avoir autre chose à dire que Poutine. Voilà, donc bah vas-y Raphaël, hein, il te reste encore quelques mois, on a encore le temps, là on est loin avant la présidentielle, il y a encore les municipales, il y a encore la dissolution, enfin bref, il va y avoir deux, trois trucs qui vont se passer d'ici là, mais s'il veut défendre une candidature à l'élection présidentielle, ouais, va falloir qu'il nous montre un autre Glucksmann, quoi. Donc ouais non pas enfin j'allais dire pas très intéressant le débat Glucksmann-Zemmour, c'est sûr c'était pas intéressant le reste de l'émission avec Raphaël Glucksmann qui répond à des Français etc là encore on est très early game par rapport à la présidentielle donc on n'apprend pas grand chose qu'on ne sait pas déjà sur Raphaël Glucksmann alors peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent mal. Avec Raphaël Glucksmann n'est pas le mec le mieux identifié par l'opinion publique française. Donc il y a peut-être des gens qui ont découvert Raphaël Glucksmann, etc. Très bien, tant mieux pour eux, mais. Ouais, encore une fois, il va falloir muscler tout ça, quoi. Merci Sirius and Mars. Zemmour contre Glucks, ensemble, ils font 10%. Vous êtes marrant, vous. À faire des prédictions sur l'élection présidentielle à un an et demi du scrutin, c'est encore dur à dire, hein. Les capacités de faire des scores pour l'un comme pour l'autre, c'est encore très très dur. D'ailleurs, c'est dur pour tous les candidats, hein. À ce stade, franchement. Pour l'instant, Glucksmann ressemble à Macron en 2015. Laissez-lui 2 ans de média training et d'élaboration d'un programme qui est avalisé pour sa base économique. Il peut nous surprendre tous. Je suis d'accord avec toi, tout est possible dans une campagne présidentielle. On pourra avoir une candidature Glucksmann solide en intention de vote avec laquelle il faudra composer pendant la campagne. On verra ça. Et puis le score final, alors là. Quel est ton souhait et ta vision pour la gauche en 2027? Moi, j'ai aucun souhait, je m'en fous. Ma vision pour la gauche en 2027, je pense qu'il y aura trois candidatures. Une candidature Mélenchon, une candidature Glucksmann et une candidature entre les deux qui sera issue du processus de primaire organisé par plusieurs partis politiques. Et je pense que le Parti socialiste va se diviser sur le soutien à Glucksmann ou au gagnant de la primaire. Ça dépendra qui gagne la primaire. On n'entend plus beaucoup parler du PCF. Putain, t'as raison, j'ai oublié le PCF. Alors le PCF, moi, je sais plus quoi en penser parce que moi, pendant des années, je vous ai rappelé que le Parti communiste, depuis que Fabien Roussel avait remporté le Congrès, le Parti communiste était sur une ligne d'autonomie, c'est-à-dire une candidature autonome communiste à l'élection présidentielle. Ce qu'on a vu avec la candidature de Fabien Roussel. Le truc, c'est que ça s'est pas très bien passé pour Fabien Roussel, évidemment. En même temps, à quoi il s'attendait. Et de ce que j'entends, des échos que j'entends, il est possible que le PCF change de point de vue dans la perspective de 2027. Alors, est-ce que le changement de point de vue, ça voudra dire un ralliement à Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce que le changement de point de vue, ça voudra dire la participation à une primaire? Ils sont pas chauds pour la primaire, les communistes. Donc, à mon avis, non. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Les communistes, en ce moment, ils sont en train de se gratter la tête, pour savoir ce qu'ils font en 2027, quoi. Le congrès du PCF, ce sera à l'été 2026, on y verra plus clair. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. D'ailleurs, nouveau congrès du PCF en 2026. Est-ce que Fabien Roussel et sa ligne d'autonomie sera reconduite ? Ce sera la question qu'on se posera à ce moment-là. Ce sera la question qu'on se posera et ça indiquera quelque chose de clair sur les options qui seront choisies par les communistes pour 2027. Ah non, c'est pas simple. Hein. Ouais, c'est dur à lire. Ça a toujours été dur à lire les congrès du PCF, mais là, à ce stade, je suis incapable de vous dire ce que va faire le PCF en 2027. Glucksmann n'est même pas au PS, pourquoi le PS serait derrière lui? Je ne pense pas que le Parti Socialiste va se ranger derrière la candidature de Raphaël Glucksmann. Par contre, que beaucoup de socialistes décident de soutenir Raphaël Glucksmann plutôt que le candidat soutenu par le parti, ça c'est possible, ça dépendra de qui gagne la primaire. De qui gagne la primaire en fait. Putain, comment il s'appelle? Oh, je suis fatigué, le mec d'Amiens. Comment je peux l'oublier? Ruffin, merci, Ruffin, François Ruffin. Putain, Jean, merde! Si c'est François Ruffin qui est investi par la primaire candidat pour l'Union Populaire, Front Populaire 2027, là, à mon avis, t'as une partie du PS qui va pas avoir envie de faire campagne pour lui, quoi. De la même manière que si c'est François Hollande qui gagne la primaire, je suis pas sûr que François Ruffin fasse campagne pour lui. Voilà, on verra. On verra. Ce serait énorme, Hollande. Putain, le retour de François Hollande. La candidature Hollande. Non, mais moi, je vous ai toujours dit, François Hollande, il nous a déjà surpris une première fois, une primaire. Est-ce qu'il va réussir à le faire une deuxième fois? C'est pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il sera candidat, François Hollande, à la primaire. Donc, on verra. Est-ce qu'on a plus de détails sur cette primaire? Parce que pour l'instant, ça a l'air très PS écolo, donc pas majeur non plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On aura des détails pratiques sur l'organisation du scrutin de la primaire en décembre prochain. Première chose. Deuxième chose, pour l'instant, cette primaire, elle est prévue par le processus de Front Populaire 2027, issu du processus de Bayeux lancé par Lucie Castet. Il rassemble le Parti Socialiste, les écologistes, Génération, Debout et l'Après. Ça, ce sont les organisations qui participent au processus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres à l'avenir, on verra. Mais voilà. Je comprends toujours pas pourquoi il s'évertue à vouloir faire des primaires. J'ai toujours trouvé ça inutile, voire dangereux électoralement parlant. Bon, on a déjà eu cette discussion mille fois, mais une primaire, c'est pas utile ou inutile dans l'absolu. Ça n'a jamais été le cas. Une primaire, c'est un processus qui peut contextuellement avoir une utilité et fonctionner. Merci Ichidev. On a vu des primaires qui ont donné naissance à des échecs électoraux. On a vu des primaires qui ont donné naissance à des victoires électorales. Les deux ont existé. Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion absolue? Non. La La dernière fois que la gauche a gagné une présidentielle, c'était suite à une primaire. Ah, tu peux même aller plus loin que ça. Les deux seules fois que la gauche s'est retrouvée au second tour d'une présidentielle au XXIe siècle, c'était suite à une primaire. Alors, ça va peut-être changer. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon va réussir à se qualifier au second tour de la prochaine élection présidentielle, auquel cas il fera mentir Enfin, il fera rien mentir du tout, parce que c'est historique, mais il changera la donne. Aujourd'hui, on voit bien qu'un candidat seul en mode providentiel a plus de chances de séduire l'électorat. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on a bien vu depuis 2017 se créer un paysage politique présidentiel organisé autour de candidatures fortes issues de partis politiques unitaires, pour ne pas dire 100% acquis à la cause du candidat. Qui se qualifient au second tour ou qui sont à deux doigts de se qualifier au second tour. C'est les fameux trois blocs, LFI, RN, macronistes. Sauf que la campagne de 2027 va peut-être être différente. Je suis dubitatif sur la capacité des vieux partis politiques à réussir à recréer des mouvements comme ils l'ont fait par le passé, qui donnent naissance à des candidatures victorieuses ou alors très fortes et très puissantes. Je constate comme toi qu'on est effectivement dans un système politique où il vaut mieux être une personnalité forte, hyper médiatique et clivante que être issu d'un processus délibératif, collectif, partisan, etc. On verra, on peut être surpris, encore une fois, on peut être surpris. Je veux dire, s'il y a bien un truc que la politique nous apprend, c'est qu'on fait mentir les pronostics quand même assez régulièrement. La France insoumise est pas trop mal placée dans les sondages alors qu'ils n'ont pas commencé leur campagne. Quand Mélenchon va passer en mode papy pédagogue, le second tour est loin d'être impossible. Oui, tu as raison de rappeler que la France insoumise nous a montré à deux reprises sa capacité à progresser de manière marquante dans les sondages pendant la campagne présidentielle. En gros, LFI fait de très bonnes campagnes présidentielles, en tout cas ça lui réussit plutôt électoralement. Est-ce que ce sera le cas à nouveau? Peut-être, peut-être pas, je sais pas, faut voir. Ça peut être. Beaucoup de choses peuvent changer en très peu de temps. Et oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il a pour lui de déjà être très bien identifié du paysage politique et d'être quasiment sûr d'être candidat. Donc forcément, les gens se réfèrent beaucoup par rapport à lui. Donc oui, il est bien placé dans les sondages. Et il pourrait arriver au second tour, ouais. Mais c'est. Ça demande un alignement de planètes très particulier de se qualifier au second tour. Je suis sidéré par la délulu des gens qui croient que la gauche va aller au second tour en ordre dispersé. À chaque fois que la gauche a été au second tour d'une présidentielle, elle était en ordre dispersé. Preuve que ça n'empêche pas que ça se produise. Deux seules fois où la gauche était unie, c'était 64 et 74, je crois, de mémoire. Ça a pas donné des très bons résultats. Il y a eu la gauche plurielle aussi. Mais attendez, la gauche plurielle, c'était une alliance législative, hein, ce n'était pas une présidentielle. Je vous rappelle ce que ça a donné, la gauche plurielle à la présidentielle, justement. Donc. Mitterrand, c'était pas la gauche unie. Pas en 81, non? Pas en 80? En 81, Mitterrand est candidat pour le Parti socialiste et les communistes ont leur propre candidat. Je sais plus qui c'était d'ailleurs, qui a fait 16%, je crois, un truc comme ça, 15%. Donc la gauche en 81 n'était pas unie à la présidentielle. Ça n'a pas empêché Mitterrand d'être élu président de la République. C'était Georges Marchais qui était le candidat. 15,35%. Merci Perceval. Georges Marchais, ouais, bah voilà, 15%. Donc ouais, non, les pronostics présidentiels, à ce stade, il peut se passer tellement de dingueries. Alors du coup, non, parce que du coup, hier, j'étais avec Marine Tondelier. On est resté papoter après, machin, on a discuté avec Marine Tondelier et elle devait aller à BFM TV. Elle était invitée à BFM TV, machin. Puis à un moment, on discute, puis je lui dis, mais attends, tu dois pas aller à BFM, toi? Elle me dit, non, non, c'est annulé. Ah ouais, c'est annulé? Mais pourquoi? Maintenant, finalement, ils font une soirée spéciale enjeu de défense. Je dis, pourquoi ça? Bah parce qu'apparemment, le chef d'état-major des armées, il a dit des dingueries au salon des maires. Et du coup, BFM TV, ils font une spéciale, machin, on va en guerre et tout. J'étais en mode, quoi? Pour passer à côté de ça, il s'est passé. Et du coup, bon bah du coup je suis allé regarder. Du coup on va regarder ensemble. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, mesdames et messieurs, vous savez que la France est un grand pays. Oui, vous le savez. Oui, vous le savez. Non, vous savez que la France a une armée. La France a plusieurs armées et elle a un état-major qui dirige les armées. Avec les chefs d'état-major des armées. Et il y a un mec qui s'appelle le chef d'état-major des armées, CEMA, le SEMA, comme on dit dans le jargon, voilà, vous le saurez, le SEMA, qui dirige tout ça, sous la férule évidemment du président de la République, chef des armées, tout à fait, tout à fait. Mais le chef d'état-major des armées n'est pas le mec le plus connu des Français. Les gens connaissent pas le chef d'état-major des armées. On connaît pas son nom, on connaît pas son histoire, on connaît des machins et tout. C'est pas un mec très médiatique, c'est pas un mec qui intervient tous les 4 matins sur les plateaux de télé pour discuter des enjeux géopolitiques, etc. Pourtant, c'est un bonhomme assez important. Or, il se trouve que l'actuel chef d'état-major des armées, qui s'appelle Fabien Mandon, c'est son nom, l'actuel chef d'état-major des armées, a été invité hier au Salon des maires de France. Le salon des maires de France où était le streamer Jean Massier. Mais il n'a pas vu le SEMA, parce que c'est un connard Jean Massier, c'est pour ça qu'il l'a pas vu. Donc, il a fait un discours devant les maires pour parler des grands enjeux de la défense, etc., machin. Et il a dit des trucs qui ont soulevé des sourcils. On va dire ça comme ça. Il a dit des trucs qui ont soulevé des sourcils. Je vous propose qu'on écoute. Mesdames et messieurs, le chef d'état-major des armées françaises, O7 dans le chat, c'est parti.
Tout le savoir, toute la force économique, démographique, pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes. Parce que spontanément, c'est pas des lectures du dimanche, c'est pas quelque chose d'accessible facilement. On peut avoir le sentiment que c'est loin, et c'est vrai que ça reste loin. La mécanique, c'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace. La mécanique, c'est une mécanique de solidarité. C'est une mécanique de solidarité avec des pays qui sont aujourd'hui sur le flanc est de l'OTAN, qui pourraient être attaqués, et qu'on ira protéger par solidarité. Et à partir du moment où on s'engage en solidarité, à ce moment-là, on engage les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont choisi de servir sous l'uniforme. Donc moi, j'ai donné aux armées un objectif qui est d'être prêt dans 3 à 4 ans. Mais j'ai besoin que la nation soit prête à soutenir cet effort si on devait le faire. Je suis convaincu, je vous le dis, je suis convaincu que si nos ennemis voient notre détermination à nous défendre, à protéger ce que nous portons comme valeur, comme histoire, ils iront voir ailleurs, parce qu'ils savent que nous sommes plus forts. Mais il faut en faire la démonstration, et c'est dans les 3 années qui viennent.
Voilà donc Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées, qui s'exprimait devant les maires à l'occasion du congrès des maires de France et qui a tenu un discours. Alors, moi, je sais pas quoi en penser de ce discours. C'est est-ce que c'est un discours finalement tout à fait classique de militaire qui parle de la préparation à la défense? Quand il dit, par exemple, j'ai donné la consigne aux armées d'être prêts dans 3-4 ans. Sous-entendu à un choc direct avec la Russie, c'est ça qu'on comprend dans ce qu'il dit. Il est clairement dans son rôle. Il est clairement dans son rôle. Oui. C'est chef d'état-major des armées, il demande aux armées de se tenir prêts à une menace, etc. Machin. Ça, jusque-là, pas de souci. Et sur le côté, ce qui a beaucoup fait réagir, sur le côté, il faut que la France soit prête à sacrifier ses enfants. Est-ce que c'est lui qui est lucide sur la réalité du danger et c'est nous qui sommes complètement délulus, tellement on est habitué à la paix dans le confort européen? Ou est-ce que c'est un va-t-en-guerre qui raconte n'importe quoi? Il n'y a aucun risque que personne ne meure dans aucun conflit qui de toute façon n'existe pas. J'en sais rien. Ces enfants, c'est l'armée pour moi. Oui, complètement. Non, non, bien sûr. Quand il dit oui, quand il dit qu'il faut que la France se prépare à sacrifier certains de ses enfants, personne ne va tuer des enfants. Pardon. Effectivement, t'as raison, il faut le préciser. Personne ne va tuer d'enfants. Quand on dit ses propres enfants, on parle des militaires qui sont nos frères, nos sœurs, nos cousins, etc., les enfants de la France qui vont aller se battre et qui vont probablement, pour certains d'entre eux, mourir dans des combats. Voilà. Non, ouais, je préfère préciser. Oui, effectivement. Sacrifier ses enfants, c'est vrai que dit un peu vite, on peut croire que, je sais pas, l'armée va venir frapper à votre porte et tuer votre gosse, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le projet. Surtout des jeunes de 18 à 25 ans. Non, et d'ailleurs, il a raison quand il dit que les militaires sur le terrain, les militaires aujourd'hui, enfin les militaires de demain également, c'est des jeunes. C'est pas des cinquantenaires hein, qu'on envoie sur les champs de bataille. C'est des jeunes. C'est des jeunes engagés, c'est des jeunes professionnels, etc. Donc voilà. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. Complètement. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été des jeunes qui mouraient à la guerre. Ce monsieur est passé de colonel à général 5 étoiles en moins de 10 ans, étonnamment sous le mandat de Macron, donc question objectivité, c'est à revoir cet individu. Parce que tu connais pas, toi, l'avancement de carrière dans l'armée? Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Ouais, non, si, ouais, de colonel à général 5 étoiles en 10 ans, si, ça existe, ouais. Et puis, j'ai rien à voir avec l'objectivité en plus. Enfin, c'est quoi le rapport? Par contre, ce qui est vrai, c'est que Fabien Mandon, avant d'être chef d'état-major des armées, il était le chef d'état-major particulier du président de la République. Donc c'est l'attaché militaire, on va dire ça comme ça, c'est l'attaché militaire le plus proche du président de la République qui s'occupe de faire le lien entre les armées et le chef des armées, donc le président de la République. Et c'est après avoir été chef d'état-major particulier qu'il est devenu chef d'état-major des armées. C'est donc un, enfin, on peut supposer que c'est un proche d'Emmanuel Macron. Tu passes à côté du problème, le problème c'est qu'il parle. Le problème c'est qu'il parle. Pourquoi il doit pas parler? Non mais c'est vrai que, enfin, c'est vrai que nous en France, on est très éloigné des questions militaires, à la différence de sociétés beaucoup plus militarisées que nous, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, Israël ou d'autres, qui ont l'habitude de voir des uniformes à la télévision, à la radio, très régulièrement, pour commenter l'actualité, etc. Nous, on n'a pas l'habitude d'écouter des discours du chef d'état-major des armées. On écoute des politiques en costume-cravate, là, qui parlent, qui disent des trucs dans des micros, etc. Mais les militaires, on ne les entend jamais. Est-ce que c'est parce qu'on ne les entend jamais qu'ils n'ont rien à dire? Je ne pense pas. Et à choisir, je préfère entendre le chef d'état-major des armées plutôt qu'un expert militaire sur un plateau télé. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour les experts militaires, surtout les vrais. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que quand le chef d'état-major des armées dit des choses comme ça, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on en parle ce soir, si vous réfléchissez bien, ça aurait été un random député qui serait venu à la télé pour dire la France doit se préparer dans les prochaines années à un choc frontal avec la Russie. Et il va falloir qu'on accepte de sacrifier nos enfants et de faire des choix. Ben, on ne l'aurait jamais commenté, en fait. On s'en serait battu les couilles. Sauf que là, le mec qui le dit, c'est le chef d'état-major des armées. C'est autrement plus opérationnel, c'est autrement plus précis, c'est autrement plus grave, je pense. Il est où le devoir de réserve de l'armée? Alors, le devoir de réserve de l'armée, comme le devoir de réserve des fonctionnaires, il s'applique aux choix, aux questions religieuses, mais aussi aux questions politiques. Sous-entendu de choix, de personnalité politique, de programme politique, etc. Le chef d'état-major des armées, il a le droit de parler de la guerre. Enfin, il est dans son devoir de réserve. Il parle de son domaine, il est chef d'état-major des armées, il dit des trucs, enfin, voilà. Il dit la France doit se tenir prête, machin. Pour moi, il n'outrepasse pas son devoir de réserve. Il dit des trucs bêtes et méchants de chef d'état-major des armées, quoi. Je sais pas. Alors, il a quand même utilisé des mots. D'ailleurs, ça m'a intéressé parce que dans cet extrait, on voit bien que quand il dit que la France doit sacrifier des enfants, pardon, il ne le dit pas comme ça. Il dit que la France doit se préparer à avoir à faire des choix difficiles. Avec le sacrifice de ses propres enfants, donc des militaires, des choix budgétaires et économiques, etc. Il le dit pas en lisant des feuilles. J'ai l'impression que le chef d'état-major des armées, là, Fabien Mandon, il a un peu levé le nez de ses notes et de son discours pour dire des trucs qui n'étaient pas prévus. Et je pense que ça lui a échappé. Je pense qu'il l'aurait écrit différemment s'il avait lu un discours machin. Il en avait gros. Il en avait gros. Visiblement, ça lui tenait à cœur. Visiblement, ça lui tenait à cœur. Il voulait dire les termes. Il a dit les termes. Et à mon avis, il a fait une gaffe. Je pense qu'il a fait une gaffe. Sur la forme, sans doute, mais sur le fond. Bah, c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer de manière nuancée, c'est que selon moi, sur le fond, il n'a pas dit grand-chose de révolutionnaire, ni de très surprenant, de la part d'un chef d'état-major des armées, compte tenu de la situation actuelle. Ouais, sur le fond, je suis pas révolté, quoi. La guerre, ça tue. Ouais, c'est ça, la guerre, ça tue, il y a des gens qui meurent. Enfin, c'est... Oui, la guerre, ça tue. Mais encore une fois, on vit dans un monde en paix. Enfin, vous et moi, on est une génération d'hommes et de femmes qui avons grandi et vécu dans un pays en paix. Ou avec des conflits, mais qui étaient des conflits lointains qui ne nous touchaient pas directement. Donc forcément, ça peut nous hérisser l'oreille quand on entend un militaire nous dire que attention, il y a la mort quand même. Parce qu'on est très très loin du conflit, quoi. Merci, Fram. Ça me semble totalement hors de propos d'avoir ce discours en parlant d'une puissance nucléaire. C'est-à-dire. Ce serait hors de propos si la Russie n'était pas en Ukraine. Bah oui, le conflit en Russie, pour le coup, change un peu la donne, quoi. Et je maintiens que se préparer à un conflit avec un pays belligérant, c'est pas scandaleux. Au contraire, c'est même plutôt le genre de truc que l'armée fait, se préparer. On verra si ça intervient un jour ou pas, mais. Pourquoi tenir ce genre de discours spécifiquement durant la conférence des maires? Bah ça, j'en sais rien. Ça, c'est les maires qui ont décidé d'inviter le chef d'état-major des armées. Ça me choque pas que le chef d'état-major des armées prononce un discours à l'occasion du congrès des maires de France pour parler des territoires, pour parler du lien entre l'armée et la nation, pour parler de... Enfin, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui prennent la parole au congrès des maires de France, de toutes sortes. Même moi, j'ai été invité cette année, c'est vous dire. C'est vous dire si on fait parler n'importe qui dans ce genre d'événement. Il y a des maires qui sont contents parce qu'ils ont une base militaire à côté de chez eux. Alors, il y a ça, oui, effectivement. Puis il y a des maires qui ont des bisbilles avec le ministère de la Défense sur des terrains, sur du foncier, etc. Bon, il y a des dossiers, il y a des sujets. Se préparer, c'est accepter la guerre. Bah, c'est-à-dire que la question se pose pas tant sous forme de est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu n'acceptes pas. Hein. Malheureusement, quand un pays t'envahit, il ne te demande pas trop ton avis. Merci, Chartrou. Ne pas se préparer, c'est accepter d'être détruit. Oui, c'est une autre manière de voir les choses, effectivement. Moi, je n'accepte pas d'être cambriolé, et pourtant j'ai une serrure à ma porte. Hein. Oui. Mais je n'accepte pas. Hein. La guerre, quand c'est pas toi qui la provoque, l'accepter, c'est pas une question. Tu penses quoi du fait qu'on ait ouvert plein de classes défense et que le budget de l'armée plus élevé que celui de l'éducation nationale, il y a quand même une saignée budgétaire à cause d'une guerre probable. Il y a un effort supplémentaire qui est fait par la France depuis plusieurs années maintenant pour rehausser son niveau d'investissement militaire. compte tenu de la guerre en Ukraine, compte tenu du retrait des États-Unis de l'OTAN aussi, faut le dire. Ça aussi, hein, c'est pratique, hein, d'avoir vécu sous le parapluie américain. On pouvait voter des budgets avec pas beaucoup d'armées, etc. C'était sympa, hein. Ouais, c'était chouette, c'était chouette. Bah, on a fait ça pendant plusieurs décennies, maintenant c'est un peu terminé. Le fait que le budget de la défense soit supérieur au budget de l'éducation nationale, j'en ai rien à foutre. Dans le sens que c'est pas une question de priorisation par le montant d'argent que tu investis. Moi, ce que je veux, c'est que l'éducation nationale ait autant d'argent que nécessaire. Et aujourd'hui, c'est pas suffisant. Mais je veux aussi que l'armée ait autant d'argent que nécessaire. S'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, m'importe peu, en fait. À partir du moment où les enfants, ils ont des profs dans les classes, ça me va. C'est pas... Je sais que le symbole est important, machin et tout. On fait toujours de la symbolique en politique, c'est très important. Je m'en fous un peu de la symbolique. C'est vraiment concrètement, là, dans les classes, est-ce qu'il y a assez de profs? Oui ou non? Il n'y en a pas assez, et ben on en embauche. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Le problème de l'éducation, c'est surtout qu'une bonne part du budget va dans la retraite. Hein? Non, mais enfin, non, justement, ce que j'expliquais, c'est ne faisons pas de whataboutisme en regardant les budgets des ministères, en disant, ah, celui-là, il est plus que moi, c'est scandaleux, etc. Il faut que les retraites soient bien financées. Tout comme l'éducation doit être bien financée. C'est pas une question de... Même Sarkozy avait recadré ses ONE Royal en disant qu'il ne fallait pas choisir entre l'éducation et la sécurité des enfants. Oui, je me souviens, 2007, putain, t'as raison. Ça remonte. Donc les profs sous-payés, ça te dérange pas? Oui, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est très précisément ce que j'ai dit, c'est ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il faut une équité, pas forcément une égalité. Oui, non, mais c'est ça. Est-ce qu'il va falloir qu'on s'habitue, vous et moi, à entendre régulièrement parler de la guerre comme d'une éventualité tout à fait plausible dans les années qui viennent, etc. Je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'effectivement, les armées ont de bonnes raisons de croire qu'un conflit ouvert est possible avec une puissance comme la Russie. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que ça n'arrivera jamais, ça n'adviendra jamais, peut-être que c'est possible. Je suis comme vous. Je suis comme vous, j'écoute, je tends l'oreille, j'écoute ce que nous disent les militaires, j'écoute ce que nous disent les experts, j'écoute comment réagit aussi le paysage politique. On a une armée professionnelle maintenant. Oui. On a une armée professionnelle, on n'a plus une armée d'appelés, comme on disait avant, avec la conscription. Ça n'empêche pas, et pour le coup, le chef d'état-major des armées a raison, de rappeler que une guerre, en tout cas une guerre ouverte, un conflit de haute intensité sur le territoire ou juste à côté, c'est un engagement de l'ensemble de la nation. C'est pas que les militaires qui font la guerre pendant qu'à l'arrière, le pays continue à tourner comme avant. Non. Une vraie guerre, c'est une mobilisation totale de la société, c'est une réorientation des budgets publics vers l'effort de défense, c'est une réorientation de la politique économique vers l'effort de guerre, c'est une mobilisation de toute la société, c'est une... Enfin voilà, c'est... Alors ça veut pas dire que tout... Ça veut pas dire que tous les artisans commerçants de France vont commencer à produire des obus dans leur arrière-boutique. C'est pas ce que je dis, mais en termes d'efforts et de mutations économiques, ça peut être très rapide et c'est très spectaculaire en tout cas. Ça, c'est la définition d'une guerre totale, c'est pas juste une guerre. Non, une guerre totale, pour moi, pas avoir de débat particulièrement historique, mais pour moi, la notion de guerre totale, ça désignait la volonté de l'annihilation totale de la population du pays adversaire. Je crois me souvenir que c'était plus ou moins ça. Mais. Mais non, moi, je parle de l'hypothèse. À ce stade très peu probable d'un conflit territorial, alors directement en France, ça a peu de chances d'arriver, Strasbourg, tu vois, qui se fait envahir par des chars russes, j'y crois moyen, mais par contre en Allemagne, en Pologne, voilà. Mais il existe la dissuasion nucléaire. Oui, mais s'il y a bien un truc que nous a appris l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, c'est que l'arme nucléaire n'a pas fait disparaître les combats conventionnels. Il y a un moment où on a cru, c'était l'utopie de l'arme atomique comme étant la garantie qu'il n'y aura plus jamais de guerre dans le monde parce que tout le monde aura peur du déclenchement du feu nucléaire. Cette utopie s'est fracassée sur le réel. Cette utopie s'est fracassée sur la preuve, par l'exemple, la Russie, qui est une puissance nucléaire, qui attaque l'Ukraine. Avec des armes conventionnelles. Donc ouais, non, malheureusement, ce serait chouette hein, si on pouvait n'avoir comme armée que la dissuasion nucléaire, ça coûterait moins cher. Mais malheureusement, la réalité, c'est que non. On a besoin d'intervenir comme on l'a fait au Mali, on a besoin d'apporter nos forces et notre formation à l'Ukraine, etc. Donc c'est ouais. La Russie qui attaque un pays qui ne possède pas l'arme atomique. Bah oui, mais qu'est-ce que ça change? Si la Russie attaque de manière conventionnelle, encore une fois, sans armes nucléaires, la Pologne, l'Allemagne. Vraie question, tiens, d'ailleurs. Non, mais vraie question. Si la Russie attaque la Pologne, est-ce que vous croyez que la France doit défendre la Pologne? Putain, cette question. Oh. Il y a tout le XXe siècle qui remonte. Oui, d'accord, vous répondez tous oui, ça me rassure, ça veut dire que voilà, on a tous été en cours d'histoire géo, on a tous compris que. Voilà. Ouais, faut défendre les Polonais, faut défendre les Allemands, faut défendre. Ouais. Idem pour les pays baltes. Idem pour les pays baltes, je suis d'accord avec toi. On a fait une alliance, non? Oui, bah la Pologne est membre de l'OTAN, la France est membre de l'OTAN. Théoriquement, les États-Unis sont aussi membres de l'OTAN, donc ils sont censés venir filer un coup de main quand même pour défendre la Pologne si jamais elle était attaquée. Pareil pour les pays baltes. Après, est-ce qu'ils le feront? Coucou, coucou Donald. C'est pas sûr. Enfin. Est-ce que l'Europe doit s'émanciper de la protection américaine et développer ses propres moyens de défense autonomes avec sa propre alliance militaire, etc. C'est une question qui est ouverte. Alors l'OTAN n'est pas complètement mort, mais c'est que ça commence à puer du cul quand même. La Russie ne tenterait jamais l'OTAN, il y a trop de soldats et d'armes. En fait, j'ai très envie d'être d'accord avec toi. Le truc, c'est que j'ai déjà entendu et j'ai déjà lu dans mon chat, il y a plusieurs années, des gens me dire que la Russie n'attaquera jamais l'Ukraine. Ouais, oui. Pourquoi on ne défendrait pas la Pologne? Pourquoi on ne défendrait pas la Pologne? Par nationalisme? Chacun chez soi. Les Polonais se démerdent, c'est pas notre problème. On n'envoie pas des soldats français mourir pour la Pologne. C'est pas notre enjeu. Voilà, ça c'est un discours qu'on pourrait entendre. C'est un discours qu'on pourrait entendre, qui peut être tenu par des gens qui considèrent que on ne fait rien tant qu'il n'y a pas de char à Strasbourg. C'est Strasbourg la limite, tu vois. À partir du moment où ils franchissent, là, on dit ah, ouais, quand même. C'est pas très gentil ce que vous faites. Orban sortirait ce discours. Oui, Orban sortirait ce discours. Oui, bah oui, c'est sûr. Viktor Orban nous expliquerait que l'Union européenne est une salope, l'Union européenne n'a rien à faire en Pologne, l'Union européenne. Donc il ne faut pas défendre la Pologne. Tu peux être nationaliste mais avoir des alliances militaires. Ah bah oui, les forces de l'Axe. Oui. Tu as raison. Merci Jiraya pour ton sub, merci beaucoup. Question et l'inverse, est-ce que la Pologne aiderait la France? J'espère bien. J'espère bien que la Pologne viendrait au secours des pays européens attaqués s'ils étaient attaqués. La Pologne nous a aidés contre Daesh. Ah ouais? Ils ont participé aux frappes en Syrie? Je savais pas. Si un jour l'Ukraine se fait attaquer, on devrait entrer en guerre aussi. C'est ironique parce qu'ils se sont déjà fait attaquer les Ukrainiens, mais c'est une question intéressante qui, au demeurant, est une question ouverte. Si jamais le front ukrainien venait à s'affaiblir, si jamais les forces russes réussissaient une percée et commençaient à prendre possession du territoire ukrainien, à quel moment la France déciderait d'intervenir militairement et d'envoyer des forces sur le terrain? Et c'est pas une petite question. J'ai pas la réponse. Au demeurant, j'ai pas la réponse. On s'est mouillé la nuque sur le sujet. Donc je... Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où en cas de guerre, c'est le peuple russe qui dégage Poutine? Bah oui, c'est-à-dire que c'est un peu notre rêve humide, à nous les Européens. C'est qu'un jour, à la faveur d'un grand mouvement populaire russe, la société civile dégage le système poutinien. Le truc, c'est que Poutine a particulièrement bien verrouillé sa société civile. Il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de liberté d'association, pas de liberté de rassemblement et de manifestation. Il n'y a pas de... Je veux dire, les Russes anti-Poutine ont un courage immense, bien plus important que le vôtre et le mien. Ils se mettent en danger pour militer contre Vladimir Poutine. Donc bravo, en fait, à eux. Et nous, on fait ce qu'on peut de loin. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, mais oui, ce serait formidable que les Russes eux-mêmes dégagent Poutine. Ça n'arrivera pas, tout le monde aime Poutine en Russie. Et le mur de Berlin ne tombera jamais. Ça aussi, on l'a lu. On l'a lu. Oh, on l'a lu. Poutine a 3 ans de tenir plus longtemps que le mur de Berlin. C'est vrai. Y a plus de chances qu'un oligarque fasse tomber Poutine que le peuple lui-même. Enfin, t'as vu le sort qui est réservé aux opposants? Alexis Navalny, etc. Non, d'ailleurs, au demeurant, ce que tu dis est assez vrai parce que les sanctions qui ont été prises par les Européens suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont eu pour but d'essayer de mobiliser toute l'oligarchie autour de Poutine, de taper au portefeuille des grandes fortunes russes pour elles aussi les pousser à faire changer le truc de l'intérieur, soit d'arrêter la guerre, soit de dégager Poutine d'une manière ou d'une autre. A pas marché. Ça a pas très très bien marché. Prigogine, on s'en rappelle. Ah oui, putain, Prigogine. Ouais, un drame russe. Mais ouais. Est-ce qu'il suffirait-il de tuer Poutine pour que la guerre s'arrête? Non, bien sûr que non. Faudrait un changement profond de toute la mafia à la tête de la Russie, quoi. C'est pas juste une tête, tu pourrais très très bien être remplacé par Medvedev et qui continuerait la guerre, hein, c'est possible. Apparemment, ils ont vraiment flippé au Kremlin avec Prigogine. Ouais, j'ai lu ça, effectivement, que quand Prigogine a commencé à se retourner vers Moscou, là, ça a claqué des fesses vénères. Et finalement, Prigogine est mort dans un dramatique et accidentel crash d'avion. Terrible. Bah oui, les avions, vous savez, c'est pas très sûr, hein, comme moyen de transport. Surtout quand tu voles au-dessus des systèmes anti-aériens russes. Mais pas de bol, hein. Ouais, sinon c'est terrible. L'accident bête. Merci Nieko. Bonjour Jean Massier, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter du discours du chef d'état-major des armées. Non, non, mais je... Enfin, de toute façon, moi, je ne suis pas là pour vous inquiéter ou vous rassurer ou quoi que ce soit. J'analyse comme vous, j'écoute, j'essaye de réfléchir, même si c'est pas facile, hein, parce que j'ai qu'un seul neurone. Et je me dis qu'effectivement, le chef d'état-major des armées a probablement parlé trop vite. Il a dit des conneries, qui n'étaient pas écrites dans son discours. Il y a eu des phrases et des tournures de phrases qui sont de nature à inquiéter, mais que pour autant du reste, il est dans son rôle quand il dit que la France doit se préparer à un conflit armé. Voilà. Et quand il dit aux maires, on a besoin de vous parce que l'armée et la nation, ça ne fait qu'un, il faut qu'on soit tous mobilisés, il faut qu'on en ait conscience, etc. Oui, oui, c'est un discours, oui, non, mais oui. Bon, je vais pas lui jeter des pierres pour ça, quoi. Arrête là car tu fais tout le contraire en fait. C'est-à-dire, je suis en train de t'inquiéter là? Je suis en train de vous inquiéter? Ouvrez pas les journaux alors parce que c'est assez inquiétant ce qu'il y a écrit dedans. Enfin, je veux dire, c'est ouais, non, c'est pas marrant. Il y a une guerre en Ukraine. Enfin, c'est ouais, non, c'est. Bof, rien ne nous inquiète à ce stade. Non, mais rassurez-vous, il y aura une union de la gauche. Il y aura une union de la gauche et tout va changer. Et Poutine va arrêter sa guerre quand la gauche unie va gagner les élections. Ce sera ça de moins à gérer. Ce sera ça de moins à gérer. Derrière Ségolène. Évidemment, derrière Ségolène Royal. Qui d'autre? Qui d'autre pour unir la gauche? Un espoir renaît, tel un phénix. A new hope. A new hope. Vraie question. Est-ce que d'ici 2027, la question de la guerre pourrait être un vrai sujet pour les élections? On en parle peu en ce moment à cause de l'économie, mais ça pourrait devenir prioritaire. C'est une bonne question. J'ai entendu Alain Duhamel expliquer. Bon, c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais je la trouve intéressante, où il dit que l'élection présidentielle de 2027 ne sera pas une élection de crise. Mais ce sera une élection dans des crises. Et que, qu'on le veuille ou non, ces crises vont jouer un rôle. Et lui, il parle de la guerre, comme effectivement étant l'un des enjeux dont il va bien falloir qu'on parle dans cette campagne. Il parle de l'intelligence artificielle, il parle de la démographie, il parle de la dette. Voilà. Est-ce qu'on aura une crise de la dette d'ici à la présidentielle? C'est pas certain. Mais en tout cas, peut-être que les questions de défense vont effectivement s'inviter au menu des discussions de l'élection présidentielle. Au demeurant, et à titre très personnel, je préfère avoir une élection présidentielle qui se joue sur des enjeux de défense, sur des enjeux économiques, sur des enjeux sociaux, que sur la question du voile des musulmanes. Je sens que ça va me gonfler, ça encore. Insécurité, immigration, islam. Voilà. Donc, est-ce qu'on va réussir à faire vivre une campagne qui traite d'autres sujets, j'espère. Mais rappelez-vous, la dernière élection présidentielle en 2022. Il n'y a pas eu de questions écologiques dans la campagne. Il n'y a pas eu de questions écologiques dans la campagne. Il a fallu qu'on organise notre propre émission sur Twitch pour interroger les candidats sur la question écologique. Aucune chaîne de télé n'a voulu le faire. Parfois, il faut se battre hein, pour imposer des thèmes dans une campagne, pour essayer d'avoir des réponses des candidats, des engagements clairs, etc. Bon, bah, on va le faire à nouveau. Moi, au demeurant, puisqu'on parle de ça, il y a un sujet que j'aimerais beaucoup voir émerger dans la campagne de 2027, c'est la question institutionnelle. Alors, certes, c'est parce que je suis un constitutionnaliste et que j'adore ça, machin, mais c'est parce que je pense aussi que profondément se joue dans une élection présidentielle une lecture de la Constitution, de l'État, du pouvoir. Et que les questions de Sixième République, les questions de mode d'élection, les questions de liberté, etc. Merci, Euphi. Sont des questions qui méritent d'être au cœur aussi des discussions. Et j'aimerais bien que les candidats se positionnent publiquement pour nous dire ce qu'ils et elles feront ou seront comme président de la République, dans l'exercice du pouvoir, dans la méthode, dans la Constitution. Est-ce qu'il faut imaginer des évolutions de la Constitution ou pas? Est-ce qu'on... Voilà. Il y aura la retraite en tout cas. Oui, tu as raison. Bah, la retraite, clairement, la suspension de la réforme des retraites qui a été votée là, si elle entre en vigueur, coucou la loi d'exception, si elle entre en vigueur, renvoie à l'élection présidentielle le débat sur la question des retraites. Et bah, très bien. Enfin, dont acte, allons-y. Ayons un débat national, ayons des candidats à l'élection présidentielle qui nous proposent des modèles de retraite. Ça a déjà commencé, il y a Gabriel Attal qui nous parle de capitalisation, il y a la retraite à points qui est en train de revenir, la retraite à 67 ans pour les Républicains, la retraite à 62 ans pour le Rassemblement National, la retraite à 60 ans pour LFI. Bon, bah, ok. En vrai, à froid, c'est dur, non, Macron se voyait sûrement différemment. C'est-à-dire, dans le rôle de président de la République? Oui, certainement, mais je pense que les présidents de la République se surprennent eux-mêmes. C'est très très dur de se projeter dans le costume, hein. Tu peux te faire des promesses à toi-même sur des manières de comment tu envisages les choses, mais la réalité, c'est que ça peut se passer différemment. J'aimerais bien aussi qu'ils détaillent bien le financement de leurs mesures, car 60 ans, j'ai du mal à voir ça. J'ai hâte de voir ça. Jean-Luc Mélenchon a été très clair sur le fait qu'il y a un financement pour la retraite à 60 ans, qu'il n'y a pas de problème, que ça se finance, il n'y a pas de souci, etc. J'ai pas vu le détail du financement en question. Je ne sais pas s'il l'avait déjà proposé en 2022 ou si c'est un plan différent. Je suis comme toi, je suis curieux, non seulement de voir le détail du financement et l'effet que ça aurait si ça entrait en vigueur vraiment, quoi. Mais ça, on aura toute la présidentielle, vous et moi, ensemble, dans la joie, l'amour et l'amitié, de découvrir les propositions des candidats, leurs justifications, leurs argumentations, etc. Oh non, on va bien s'amuser, hein. Merci Sénèque, merci beaucoup. JLM a été très clair sur l'application de tout le programme du NFP, on attend encore. Ah non, mais il faut arrêter d'attendre, parce que enfin, il eût fallu que le NFP gagne les élections. Avec une majorité absolue. J'ai jamais suivi de présidentiel avec toi, honnêtement, j'ai hâte. On va bien rigoler. Ce que je peux vous promettre, et j'en prends l'engagement solennel devant vous, les Français, on va bien rigoler. À mon avis, il va y avoir ouais, non. Il va y avoir matière à rigoler. Si le RN passe, je rigole plus trop perso. Ah, si le RN est élu, effectivement, on va passer une sale soirée, ouais. On va passer une sale soirée, ça je vous le garantis. Mais on sera ensemble, première chose. Et deuxièmement, et bah, on résistera. Allez hop, tous ensemble, dans la joie, la bonne humeur, l'unité dans la pluralité. On s'oppose. Tu feras un live en direct? Bah sans doute, ouais, je ferai une soirée électorale. Comment on peut connaître les résultats vers 19h? Dans ton chat, ça balancera les résultats, mais toi, tu auras l'obligation d'attendre 20h. Techniquement, vous aussi dans le chat, vous n'avez pas le droit de donner des résultats. Hein. Je sais que vous êtes dans un respect de la loi très relatif quand vous vous y mettez, mais sachez que vous non plus, vous n'avez pas le droit de partager des résultats partiels de dépouillement de scrutin avant 20h. Sauf ceux qui habitent à l'étranger. Le cas échéant, c'est moi que vous mettez dans la merde. Et je vous en remercie, ça fait plaisir, c'est toujours agréable de se sentir soutenu. J'ai déjà les premiers résultats perso. T'es con. Même au municipal? Oui, même au municipal. La loi interdit la communication de résultats partiels d'élection avant 20h le jour du dépouillement. Et c'est valable pour tout le monde. Pas les journalistes, c'est pas les médias, c'est pas les... C'est tous les Français. Rappelle pourquoi. Oui, la raison de l'existence de cette loi, c'est pour préserver et sanctuariser le vote et éviter les influences extérieures qui pourraient venir perturber le processus électoral. Il ne faut pas qu'il y ait une asymétrie d'information entre les électeurs qui ont voté à 8h du matin et les électeurs qui vont voter à 19h. Si on avait des sondages qui tombent à midi, qui donnent une avance spectaculaire pour un candidat machin, ça pourrait changer le vote de certaines personnes qui votent l'après-midi par rapport à ceux du matin qui ne peuvent pas reprendre leur vote pour changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on a créé cette loi en disant communique rien avant 20h. 20h étant l'heure de fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes. Et comme on sait que c'est la gauche qui vote l'aprem, oh bon, on les connaît les gauchistes, hein. Ça dort le dimanche matin. Merci petit Chris. Ça ronfle. Si les gens n'ont pas de conviction et peuvent changer du matin au soir, pourquoi c'est à l'État de réguler? Mais l'État régule pas l'opinion des gens. Vous votez comme vous voulez pour les raisons que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. La question, c'est l'égalité entre les citoyens, entre les bulletins de vote. Je vais dernier, je vais donner un dernier argument pour lequel je me permets de vous déconseiller de communiquer sur Twitter, etc., des résultats d'élections. Vos adversaires politiques peuvent utiliser vos tweets à vous dans une procédure de justice pour obtenir l'annulation d'une élection parce que vous avez tweeté un peu trop tôt votre joie d'avoir gagné l'élection. Voilà, ce serait con, ce serait con, ce serait con que vous vous retrouviez dans une procédure de justice intentée par des fachos parce que vous avez célébré je sais pas quoi. Donc, mollo sur Twitter avant 20h. Et Est-ce que c'est déjà arrivé? Je vais vous raconter une anecdote, c'est une histoire vraie. C'est une histoire parfaitement vraie. Première saison de Backseat. Première saison de Backseat. Juste avant les élections régionales, on reçoit en invité politique une candidate, c'était Clémentine Autain, candidate de gauche sur la liste de la gauche unie contre Valérie Pécresse à l'élection régionale en Île-de-France. OK? On la reçoit, on est jeudi soir, on est sur Backseat. On fait une interview politique, tout se passe bien, youpi youpla, etc. machin. La période de réserve commence le vendredi soir. Les candidats n'ont plus le droit de faire campagne, de distribuer des tracts, de publier sur les réseaux sociaux, de faire quoi que ce soit, de coller des affiches, etc. C'est terminé, c'est ce qu'on appelle la période de réserve. Et donc nous, on interview Clémentine Autain. Et comme vous le savez, les replays de Backseat sont disponibles pour tous les abonnés payants immédiatement après l'émission. N'hésitez pas à soutenir Backseat, point d'exclamation Backseat dans le chat. Mais par contre, les replays pour le grand public sont diffusés au cours du week-end par petite, enfin par tranche. Et on publie sur la chaîne YouTube de Backseat l'interview de Clémentine Autain le samedi en pleine période de réserve. Merci, petit radis. Or, il se trouve que je connais très bien une membre du cabinet de Valérie Pécresse, qui était une copine de promo, qui me téléphone et qui me dit: vous êtes vraiment des gros boulets, vous, la gauche. Elle a utilisé des mots beaucoup plus fleuris que ça, parce qu'elle était très fatiguée, elle était en fin de campagne, elle était éclataxe, etc. machin. Et elle m'a dit, je te préviens, votre émission Backseat, là, nous, on le rajoute dans le dossier de contestation des résultats de l'élection. Je lui dis, mais attends, tu veux contester quoi? C'est Pécresse qui va gagner de toute façon. Elle me dit, non, non, c'est pas si Pécresse gagne, ça, c'est sûr qu'on va gagner. C'est que si la gauche va en justice pour contester les résultats de notre élection, nous, on aura comme contre-argument un certain nombre de tweets et votre émission Backseat de merde. Ah, s'il faut aller en justice, on va en justice, hein. Vous nous donnez des billes, bande d'abrutis. Donc voilà, Julia, je te fais un immense bisou. Je t'aime, t'inquiète pas, tout va bien. Merci Clément Clément. Mais je me souviens très bien de ce coup de téléphone où j'ai eu vraiment des sueurs froides en me disant: putain, merde, je vais faire perdre la gauche en Île-de-France. Ce sera de ma faute. Et finalement, personne n'est allé en justice. Tout le monde a reconnu le résultat de l'élection. Personne n'est allé devant la justice pour contester, machin. Mais ça n'empêche jamais de préparer des dossiers, tu vois. Tu prépares, tu fais un... Mais si jamais il y a contestation en justice, on prépare le dos. Elle était dans son droit. Elle était dans son droit. Elle était dans son droit. On a fait une connerie. On a clairement fait une connerie. J'y avais pas pensé, j'y avais pas réfléchi. Mais en période de réserve, on n'aurait pas dû publier cette interview en période de réserve. On aurait dû la publier avant le vendredi soir. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a Backseat ce soir? Du coup, non, il n'y a pas Backseat ce soir parce qu'on a été condamné en justice par le Conseil d'État qui a dit que Backseat étant une émission de trop grande qualité par rapport à la télévision, qu'il fallait qu'on laisse un avantage concurrentiel à la télévision pour lui permettre d'essayer de rajeunir son audience. Donc, ils nous ont condamnés à l'interdiction de diffuser ce soir. Mais on pourra reprendre la semaine prochaine. D'ailleurs, je peux vous annoncer que la semaine prochaine, notre invitée politique sera Manon Aubry. Ancienne tête de liste députée européenne, ancienne tête de liste La France Insoumise aux élections européennes. C'est C'est une blague? Oui, c'est une blague. Alors, pardon, pour celles et ceux qui n'ont pas saisi mon second degré de merde, c'était une blagounette. Nous n'avons pas été condamnés en justice. Nous ne sommes pas une bonne émission aux yeux de la justice, particulièrement. Donc, voilà. À vos yeux, je sais qu'on est une très bonne émission, mais aux yeux de la justice. Voilà. Vraie question, Baxi, a-t-elle déjà été condamnée? Ah non, non, jamais, jamais, jamais. Ah non, 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 non. Ah non, venez pas me faire chier avec des procès, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps. Vous voulez pas qu'on prenne du pognon pour payer des avocats et tout? Non, 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 non. Ah non, s'il vous plaît, non. Laissez-moi tranquille. Moi qui suis nouveau, j'avais pas pris ça pour une blague. T'inquiète. Non mais c'est moi, c'est mon humour de merde, excusez-moi, pardon, pardon. Mais l'histoire que je vous ai racontée avant avec Valérie Pécresse, etc., c'est une histoire vraie. Une histoire vraie, on a fait une connerie, on n'aurait pas dû, et ça aurait pu jouer contre la gauche en Île-de-France. Voilà. Du coup, Manon Aubry faisait partie de la blague ou c'est une invitée? Non, non, c'est l'invité, c'est l'invité. Manon Aubry est bel et bien notre invitée politique la semaine prochaine dans Backseat. Nouvelles membres du club Backseat, en combien de temps sont envoyées les cartes? Alors, les cartes sont envoyées, en fait, on les fait par. On peut pas les imprimer à l'unité, ça coûte beaucoup trop cher. Du coup, on fait des paquets de cartes. Et du coup, c'est tous les 3 mois, je crois, qu'on fait une vague. Et après, il faut s'occuper de la mise en pli, etc., et de vous envoyer tout ça. Donc tu la recevras, ta carte. Est-ce que tu pourrais te faire emmerder pour le manque de pluralisme politique vu que tu invites pas de fachos? Non. Personne peut m'emmerder pour ça, c'est la liberté de toute chaîne Twitch et de toute chaîne YouTube de n'inviter que ceux qu'ils ont envie d'inviter. Voilà. Même en période électorale, même en période électorale, les règles qui s'appliquent à ma chaîne Twitch sont les mêmes qui s'appliquent à la chaîne Twitch de la France Insoumise. Voilà. Donc si vous vous posez une question un jour, demandez-vous si c'est applicable à la chaîne de France Insoumise. Et je prends cet exemple-là comme je pourrais prendre n'importe quelle autre chaîne. Ah, du coup, t'as pas le droit de critiquer JLM? Si, on a le droit de critiquer Jean-Luc Mélenchon, mais quand on fait ça, on s'expose à des mesures de rétorsion de la part de la police, des guerriers custodiens là, qui traînent sur Internet. Bon. C'est pas grave. Nique la police. Voilà. C'est la même raison qui fait qu'on peut pas empêcher Pascal Praud d'être chroniqueur à plein temps, c'est un peu chiant. C'est pénible, hein. Cette phrase va être clippée et envoyée à CNews. Eh ben, envoyez-leur. Ça leur fera les pieds. Hop. Est-ce que. Alors, on en a déjà parlé du chef d'état-major, machin, tout ça, on va pas revenir dessus. Au moins, il aura le mérite de s'être rendu connu aux yeux des Français. Voilà. Fabien Mandon, chef d'état-major des armées. Fabien Mandon. Il y a 100% de chances pour que j'aie oublié son nom demain. Didadidadoum. Yaël Braun-Pivet veut de nouvelles règles d'examen pour le budget à l'Assemblée nationale. Doudoudoudoum. Alors, Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, indique dans une interview au Monde son souhait de revoir en profondeur les règles d'examen du budget qu'elle juge incompatibles avec la culture du compromis et plaide pour un temps législatif programmé. Alors, je vois pas la différence entre le temps législatif programmé et le temps limité qui est prévu par la Constitution, mais... Admettons, je suis curieux de voir ces arguments. Alors que l'examen du budget patine à l'Assemblée nationale, sa présidente Yaël Braun-Pivet a déclaré jeudi dans une interview au Monde souhaiter de nouvelles règles pour l'examen des textes budgétaires afin de faciliter l'élaboration de compromis. On voit émerger une culture du compromis, mais nos règles de fonctionnement empêchent aujourd'hui cette culture de s'épanouir pleinement, déplore Yaël Braun-Pivet. Quelle règle ? Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est engagé cette année à ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution, jouant la carte du parlementarisme. Mais le budget de la Sécurité sociale a été transmis la semaine dernière au Sénat, sans vote sur l'ensemble du texte, et le même destin attend celui de l'État, faute de temps. Oui. La présidente de l'Assemblée nationale pointe une incompatibilité entre les délais constitutionnels qui contraignent le Parlement à un examen en un certain nombre de jours et le nombre croissant d'amendements qui ne nous permet pas d'aboutir à un vote. Oui, mais si je puis me permettre, les amendements, c'est de la responsabilité des députés. C'est pas la Constitution qui dépose des amendements. Si vous voulez voter le texte, vous déposez mon amendement. Je veux bien, mais... Elle propose ainsi que les textes budgétaires puissent être soumis... Attends, excusez-moi. Oui, c'est ça. Elle propose ainsi que les textes budgétaires puissent être soumis à une procédure de temps législatif programmé permettant de fixer un nombre d'heures maximales de débat réparties entre les groupes en fonction de leur poids. Ça, effectivement, ça existe déjà, le temps législatif programmé. Les députés pourraient déposer autant d'amendements qu'ils le souhaitent, mais ils ne pourraient en débattre que dans le temps imparti. Explique celle qui avait déjà mis cette solution sur la table début novembre, sans rencontrer un très grand enthousiasme. Ouais, je commence à comprendre ce que veut Yaël Braun-Pivet, je pense que c'est pas complètement débile, effectivement, de se dire que le temps législatif programmé peut permettre de résorber en tout cas ce problème posé par la Constitution avec avec ses limites en nombre de jours de l'examen du texte. Disons que la Constitution est incomplète. Voilà. Yaël Braun-Pivet propose également de revoir l'ordre des discussions qui commence actuellement toujours par la partie consacrée aux recettes avant de passer aux dépenses, en imaginant séquencer les textes par thématique. On déciderait par exemple de consacrer un certain nombre d'heures au logement en examinant à la fois les dépenses en faveur de cette politique publique et les recettes afférentes, suggère-t-elle, ce qui éviterait de donner l'impression que le Parlement ne discute que de taxes. Ce budget doit être le dernier discuté de cette façon-là, dit-elle. Ouais, alors là, je sais pas si je suis d'accord. Saucissonner la discussion du texte et discuter pêle-mêle des dépenses et des recettes, ça t'extirpe complètement de la cohérence de l'ensemble du budget. Je sais pas... En plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a plus assez de temps, on discute pas de la petite enfance? Je sais pas. Autre piste avancée. Renforcer le rôle des commissions. Aujourd'hui, le texte débattu dans l'hémicycle n'est pas celui qui a été travaillé et amendé en commission, mais la copie initiale du gouvernement. C'est une hérésie, estime-t-elle. Oui, d'ailleurs, pour les autres lois, c'est toujours le texte de la commission qui est examiné dans l'hémicycle. Mais faire aboutir de telles propositions ne sera pas aisé. Certaines évolutions relèvent du règlement de l'Assemblée nationale et réclament un accord global des différents groupes politiques que je suis en train de rechercher, souligne Yaël Braun-Pivet. D'autres relèvent du niveau constitutionnel, ajoute-t-elle, en disant vouloir s'entretenir à ce sujet avec le président du Sénat Gérard Larcher et le président de la République Emmanuel Macron. Très intéressantes ces propositions de Yaël Braun-Pivet. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de garder à l'esprit le fait que Yaël Braun-Pivet n'est probablement plus présidente de l'Assemblée nationale dans 2 mois. Je suis désolé, pardon, excusez-moi de revenir à des trucs très terre-à-terre, mais s'il y a une motion de censure, une dissolution, il n'y a plus Yaël Braun-Pivet. Donc, voilà. Mmh. Quel rêve? Oui, alors, avant de rêver au départ de Yael Braun-Pivet, je vous rappelle que c'est probablement Sébastien Chenu qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale. Je dis ça comme ça. Pourquoi c'est pas le texte de la commission? Tu peux nous refaire un petit point institutionnel sur le vote du budget? En l'occurrence, sur un sujet lambda hors budgétaire, c'est le texte de la commission qui est examiné en séance publique. Donc la commission pré-travaille et pré-vote des amendements. Puis c'est le texte issu de ce premier travail d'amendement qui arrive en séance publique et qui est à nouveau amendé par les députés qui veulent changer des trucs. Pour les votes budgétaires, ça ne se passe pas de cette manière-là. Il y a un travail d'amendement qui est mené par la commission, qui prépare le débat dans l'hémicycle, mais c'est bien le texte initial du gouvernement qui arrive dans l'hémicycle et qui est discuté et amendé. Du coup, les membres de la commission des finances redéposent les amendements qui ont de fortes chances d'être revotés, etc. Oui, ça pourrait accélérer un peu la discussion si on partait du texte travaillé par la commission des finances. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, pourquoi pas, hein, pas. Merci, Mélène. C'est quand le vote du budget? J'ai plus le calendrier en tête. Ben moi non plus, je ne l'ai pas en tête parce que c'est pas sûr. Je crois que c'est le 23 décembre, dernier CARA, pour le vote en dernière lecture. Si jamais il y a un vote. Parce qu'on ne sait pas encore s'il y aura un vote du budget, hein. Si ça passe par ordonnance, il n'y a pas de vote. Tu m'as collé le cafard avec ton histoire de chenu. Je suis désolé, les copains. Je suis navré. Le RN est à 35% d'intention de vote. Voilà. Et la gauche ne se dirige pas vers une union. Mais on peut être surpris. Est-ce que le Sénat peut faire traîner les choses pour empêcher le vote? Non, le Sénat ne peut pas faire traîner les choses parce que la Constitution prévoit des délais très précis d'examen du texte et si le Sénat ne s'est pas prononcé, la copie repart à l'Assemblée sans que le Sénat se prononce. Le RN a 30% entre chaque élection classique. Ouais. Ça va finir en censure, cette histoire bis repetita. En fait, j'en sais rien. Non, mais c'est ouf parce que j'ai pas la prétention d'être clairvoyant ou quoi que ce soit, mais j'ai rarement vécu un moment politique aussi illisible que celui dans lequel on est. Illisible et imprévisible. Ça fait 10 ans qu'on parle de politique sur Twitch avec vous. Ça fait 10 ans qu'on vit des moments, etc. Il se passe des trucs, il y a des élections, il y a des remaniements, etc. Mais on arrive à peu près à voir ce sur quoi on va atterrir. Là, je suis dans le flou. Est-ce que c'est pas la faute des SOSDEM? Si, si, comme tout. Comme tout. Et encore, c'est en partie ton métier, imagine-nous. Non, mais oui. Non, non, après, peut-être que j'overthink beaucoup, tu vois. C'est possible. Dix ans, t'as connu Macron, quoi. Mais vous savez que j'ai streamé le premier meeting d'Emmanuel Macron, hein. La fondation de la République en marche. C'était en direct sur cette chaîne, hein. Abonnez-vous. On va en voir des naissances de mouvements révolutionnaires. Oui, j'étais là. Voilà, il y a les anciens combattants qui étaient là, qui se souviennent. Pas de Parce que c'est notre projet, ce n'était pas le premier meeting de Macron, ça. Non, 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 non. Parce que c'est notre projet, c'est un des derniers meetings de la campagne de 2017. Est-ce qu'il était à Bercy? Je me souviens plus. Mais c'était le dernier meeting. C'était un des derniers meetings de la campagne. Le meeting de Fondation d'En Marche, c'était à la Mutualité, à la Mutu, comme on dit à Paris. C'était à la Mutu. Putain, j'en ai vu des meetings à la Mutu, hein. La Mutu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle de spectacle qui est louée pour des événements. Et grosso merdo, tous les partis politiques ont déjà loué au moins une fois la Mutu. Moi, j'ai fait des meetings de Bertrand Delanoë là-bas, j'ai fait des François Hollande plein de fois. Les macronistes, la droite aussi, ils l'ont fait. Ouais, non, la Mutu, c'est un passage obligé. Notre projet, c'est Porte de Versailles. Ah ouais, c'était Porte de Versailles, le meeting. Moi, tu me dis meeting Porte de Versailles, je pense à Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, je peux pas m'en empêcher. Je pense au giga meeting de Nicolas Sarkozy en 2007 et 2012, avec des milliers de personnes, avec une ambiance de feu, etc. C'est Nicolas Sarkozy. Je me souviens d'un truc très. À la Porte de Versailles, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la Porte de Versailles à Paris, c'est là qu'il y a le parc des expositions et c'est là où se tiennent les salons. La Japan Expo, le Salon des maires de France, le Salon de l'éducation, le Salon du vin, le Salon de l'agriculture. Voilà, c'est là, c'est le parc des expositions de la Porte de Versailles. Et une année, il y avait la PGW. Bah, c'était en 2022, hein. 2017? 2017. Il y avait la PGW, ça dans un immense bâtiment. Et dans le bâtiment d'à côté, qui était aussi un immense bâtiment, il y avait le meeting de François Fillon. Et tu avais les deux files d'attente pour les deux événements qui étaient collées l'une à l'autre. À peine séparées par un cordon, tu vois. Autant vous dire que c'était pas le même public. Autant vous dire que voilà. Moi, j'allais évidemment à la PGW, hein, j'allais pas voir Fillon. Encore que j'aurais dû y aller, sans doute, mais. Et donc, je me souviens qu'il y avait les deux files d'attente. Donc, tu avais les jeunes nerds qui voulaient jouer à Call of. Et tu avais les vieux bourgeois en vison et en cachemire qui allaient voir François Fillon. Et avec un pote, on s'est dit, hey, tu sais ce qui serait marrant? Ce serait qu'on intervertisse les deux panneaux d'indication pour que les deux files d'attente aillent dans le truc de l'autre. Est-ce qu'on rigolerait pas un peu quand même? Ce serait rendre service à personne que de faire ça, mais ce serait un peu drôle. De voir tous les vieux bourgeois du 16e à la PGW, entre les stands et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce salon et tout? Et les jeunes. Les jeunes joueurs de LOL qui se retrouvent à un meeting de Fillon. Bon, finalement, on l'a pas fait, parce qu'on est nul. Mais en vrai, la blague eût été drôle. T'as créé Sardoche. Je viens de vérifier, c'était Villepinte le meeting géant de Sarko. Il y avait aussi Villepinte, bien sûr. Non, mais Sarkozy a fait plein de meetings. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy n'avait pas beaucoup de problèmes d'argent. Donc, il faisait des meetings parfois toutes les semaines, hein. Voilà, et c'est pas une blague. C'est-à-dire, moi j'ai des souvenirs quand même. Enfin, je veux dire, la campagne de Nicolas Sarkozy, c'était matin, midi et soir. On n'arrête pas, on ne respire pas. On tabasse, on tabasse, on tabasse, on tabasse. des invités sur tous les plateaux télé, dans toutes les matinales, etc. Des propositions, en veux-tu, en voilà, tous les jours une nouvelle thématique, une nouvelle proposition choc et tout. Des meetings géants retransmis en direct sur BFM et tout. Enfin, c'était, ça n'arrêtait pas. Donc, voilà. Finalement, l'argent lui a causé des problèmes. Finalement, quelques années plus tard, il a eu maille à partir avec la justice qui lui a offert une visite de l'administration pénitentiaire. En tant qu'ancien président de la République, je suis sûr qu'il était soucieux de vérifier par lui-même le bon fonctionnement du service public pénitentiaire. Quelle indignité. D'ailleurs, pourquoi il est sorti? Parce que la justice a fait droit à sa demande de remise en liberté, en application de la loi. Et il réunissait les conditions, exactement, il réunissait toutes les conditions pour obtenir une libération conditionnelle. Une remise en liberté, je sais plus exactement quel est le bon terme. Mais on a vécu quand... On a vécu un moment marrant quand même. On a vécu un moment marrant parce que l'espace de quelques semaines, on avait une droite qui s'est découvert des passions anticarcérales et très critique vis-à-vis du régime horrible auquel on soumet les prisonniers dans ce pays, et une gauche tout à fait carcéraliste, volontiers favorable à des conditions dures, le plus longtemps possible. Bon, tout est rentré dans l'ordre maintenant, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre, la gauche est de nouveau critique du fait carcéral. Et la droite est à nouveau en train de taper sur les délinquants, les immigrés, les machins, il faut les mettre en taule. Mais donc, voilà, on aura eu un moment un peu marrant comme ça. C'est vrai que c'était magique. Non, mais c'était rigolo. Très bien. En même temps, les condamnés politiques sont souvent du même bord. Si on ferme un des deux yeux, effectivement, on peut ne voir qu'un bord. Mais il faut faire l'effort quand même. Enfin, c'est une démarche. Est-ce que tu as vu la nouvelle mise à jour de Twitch qui fait chuter le nombre de viewers? Mais je n'ai pas vu mon nombre de viewers chuter, moi. Vous êtes extraordinaire, merci d'être là, hein. Mais oui, j'ai vu que Twitch, il lutte contre le botting et du coup, il y a des vues qui disparaissent plus rapidement ou les gens qui ferment leur navigateur ou je sais plus quoi. Non, mais les hommes et les femmes politiques ne sont pas plus honnêtes quand ils sont de gauche. Non, mais ils ont un bon fond. Pas des mauvaises personnes. Enfin, non, je déconne. Tu sais comment trigger un peu toutes les sensibilités politiques du chat pour qu'on soit actif. Mais je fais exprès. Je vous trigger pour vous forcer à réfléchir, pour nous forcer à réfléchir et à discuter. Non, mais sinon on se ferait chier. Enfin, je voulais que je vous dise. Je voulais que je vous dise. Vous voulez que je vous dise que des trucs qui vous font plaisir? Peut-être que c'est ça qu'il faut faire pour être un vrai influenceur. La démagogie. On veut de la démagogie. T'as jamais pensé à être enseignant ou professeur de sciences politiques dans ton parcours? J'ai été chargé de TD. J'ai été chargé de TD en droit constitutionnel à la fac de Nanterre. Bisous tous les étudiants de Nanterre. Au début, quand j'étais streamer, hein, je faisais ça en parallèle de mon métier de streamer professionnel. Et puis j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps. Voilà. J'avais juste pas le temps. Et je crois que j'ai jamais été payé par ailleurs. Mais ça, c'est la fac, ça, c'est. T'envoies des documents à on sait pas qui, et puis tu croises les doigts pour qu'un jour il arrive un truc. Premier degré, je suis tendance droite classique et je te remercie de m'aider à toujours me remettre en question. Bah, merci à toi, c'est gentil. Courage à toi. Mais voilà, je fais œuvre publique. Moi, vous savez, je suis un saltimbanque finalement. Je ne suis qu'un artiste de rue sur la place du marché. Les gens passent devant moi comme ça, s'arrêtent ou ne s'arrêtent pas. Ils sont libres de le faire. Et je suis là pour essayer de récolter quelques deniers sous forme d'abonnement en échange d'un savoir médiocre et surtout d'une bonne humeur, finalement. Donc voilà. Je suis un clone. Oui, je suis un clone. La gaudriole avant tout. Mais oui, la gaudriole. Alors je sais que c'est pas ce qui rapporte le plus sur Internet. Mais c'est pas grave. Un jour, on formera une communauté fermée, surtout fermée sur elle-même, où on développera une doctrine politique, et tous ceux qui sont pas d'accord avec nous, ils ont tort. Ils sont cons comme des tables. Et heureusement qu'on est là. T'étais à Interglitch comme l'année dernière pour une conférence sur le jeu vidéo. C'était vachement bien l'an dernier. Ouais, c'était très très bien Interglitch l'an dernier, mais j'y suis pas cette année. Je sais pas si j'ai été invité ou pas, je crois pas. T'as déjà fait des stats de position politique de ta communauté? Oui, il y avait une époque où on avait proposé à la communauté de se positionner volontairement sur un axe gauche-droite et on avait un espèce de barycentre à gauche assez vague. Mais bon, comme tout le monde ne met pas exactement la même chose dans le truc, c'est. Enfin bref. Puis surtout, on s'en fout pas mal. Pierre-Emmanuel Barré ne fait pas consensus dans le gaudriole des clowns. Ouais, par contre, ce qui fait consensus, c'est, j'espère, c'est le fait qu'un ministre de l'Intérieur porte plainte contre un humoriste, c'est une idée de nerd, quoi. Voilà. Attendez, il faut que j'arrête mon aspirateur. Hop, voilà. Putain, c'est beau la technologie, hein. Le petit nom de ton aspirateur, il a pas de petit nom d'aspirateur. Je l'appelle le chat, voilà. Non, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est de la merde. En parlant de tech, est-ce que tu as vu la déclaration de Musk au sujet du travail? Non, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, ce génie? Cet immense génie qu'est Elon Musk. On se rend pas assez compte à quel point c'est un génie. Tout simplement le GOAT. Tout simplement le GOAT. C'est Tony Stark, le mec. Non, du coup, personne ne sait. Personne ne sait ce qu'il a dit sur le travail. C'est pas très très grave. Hein. Je vous en veux pas. Je vous en veux pas. C'est l'Idriss Aberkane américain. Ah ouais. Elon Musk est certes un génie, mais c'est moins un génie qu'Idriss Aberkane, qui lui est. Ah non, mais lui. Nous, on peut pas comprendre. Hein, d'ailleurs, ne serait-ce que comprendre. Hein. On n'y est pas. On n'y est pas. Vous y êtes pas. Je vous le dis, vous y êtes pas. Moi non plus. On n'y est pas. Elon Musk has claimed that work will be optional and money will be irrelevant in the near future due to the growth of AI. D'accord. Est-ce qu'on fait l'exégèse de cette parole prophétique de l'immense génie qu'est Elon Musk, ou est-ce qu'on fait l'impasse et on passe à autre chose? On passe? Ouais, on passe. On va passer, on va passer. On va passer. J'aime bien ton arbre à chat, il vient d'où? Il vient d'un site internet sur lequel je l'ai acheté. Bah, je crois que c'est le site Pet Machin, là, le truc super connu. Le truc sur lequel on commande des croquettes là, Zoo Plus, ouais c'est ça, Zoo Plus, Zoo Plus, voilà c'est ça. Ça vient de Zoo Plus. Je l'ai acheté sur Zoo Plus et comme je n'ai plus de chat, il ne me sert plus à rien, donc il est à donner. Donc s'il y a quelqu'un dans le chat qui veut un arbre à chat, gratos, j'ai pas envie de vous le vendre, je m'en fous. Par contre, vous venez le chercher, hein. Vous venez avec la 206, vous vous garez à cul. On prend un café, on discute, mais vous venez le chercher, moi je ne vais pas le trimballer. Tu m'as influencé pour acheter le même arbre. Mon chat n'a jamais foutu les pattes dessus. Merde. Je suis désolé. Je suis désolé. Un deuxième arbre à chat à donner du coup. Est-ce qu'on peut venir juste pour le café? Mais non, mais si vous voulez qu'on boive un coup, vous venez au public de Backseat. Venez dans le public de Backseat, on boit des bières après, on discute et tout, c'est cool. Moi j'aime bien discuter avec vous, on se rencontre, on débriefe l'émission, on raconte des conneries, on se marre. Point d'exclamation place dans le chat. Jean, j'adore ce que tu fais, je voulais déjà te le dire. Ça fait plaisir, c'est gentil, merci. Et te remercier de toujours nous éclairer du mieux possible sur des sujets parfois compliqués. Je te rassure, moi non plus, j'y comprends rien à ces sujets. Petite question, il me semble que tu as fait il y a quelque temps une réécriture de la Constitution. Est-ce que tu comptes refaire des petits projets participatifs comme ça en dehors de Backseat? Je trouve l'idée vraiment top, cool et même potentiellement en faire quelque chose de public ensuite. Merci pour ton message, ça fait plaisir. Alors, comment te dire? Ça fait 10 ans que je suis sur Twitch et ça fait 10 ans que je lance des projets et que j'imagine des trucs et que ça marche pas, on verra plus tard et tout machin. Là, depuis l'été dernier, j'essaye d'être dans un mood où je me calme un peu, où j'essaye de pas me surcharger la gueule de nouvelles idées, nouveaux projets, nouveaux machins et tout. Je garde Backseat, je garde ma chaîne Twitch où je vous rappelle que je fais un stream par jour quand même. Sauf le week-end. Et donc voilà, j'essaie de prendre soin de ma santé mentale. Ce qui fait que je me tiens éloigné des projets ambitieux ou moins ambitieux, en mode si je faisais ça, ce serait cool, et pourquoi je ne lancerais pas un nouveau jeu vidéo, un machin, etc. J'essaie de, voilà, de m'y tenir. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il n'y aura plus rien. Au contraire, j'ai toujours envie de créer des trucs. J'ai pas encore les formats, j'ai pas encore les modèles économiques et tout machin, mais oui, j'aimerais bien faire d'autres trucs à l'occasion. Pour l'instant, je m'en tiens à des trucs que je sais faire. On verra plus tard pour le développement. Voilà. Est-ce qu'il y aura une rediff du débat des écolos arbitré par trois? Par toi-même. A priori, ça devrait être mis en ligne sur la chaîne YouTube des écologistes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Confirme, c'était trop bien de te voir la dernière fois. Don't forget Ark Raiders. Putain, faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette, t'as raison. C'est ce soir Backseat? Non, ce soir, il n'y a pas Backseat. Backseat reprendra la semaine prochaine, jeudi prochain. Pas ce soir. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, non, du coup, voilà, je vous expliquais que je ne suis pas le dernier pour avoir envie de faire des trucs, mais j'essaye de tempo en ce moment, parce qu'en plus, mine de rien, il y a la présidentielle qui va arriver, et c'est un très gros morceau. Ça va être intense, ça va être dur, ça va être long, ça va. Hein? Potentiellement, ça va coûter de l'argent aussi parce qu'on va peut-être faire des émissions, des projets, des machins. Merci Nexi. Voilà. Ça commence quand la campagne? Oh, on peut considérer que ça a déjà commencé techniquement. À partir du moment où on a Jean-Luc Mélenchon face à Duhamel, Glucksmann face à Zemmour. Tondelier, Ruffin, Clémentine Autain qui sont candidats, Jordan Bardella qui sort son bouquin. Bon, voilà, il y a un moment, moi je veux bien, mais bon, on commence à y être là. Je traduis pour les geeks, cette année, on round écho après les municipales. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On est en rang d'écho. Merci à Zurich. Mélenchon se présente vraiment? C'est pas encore sûr. Merci fucking badass. C'est pas encore sûr la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Disons qu'elle est très fortement soupçonnée. Mais en l'état actuel des choses, officiellement, Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle formellement. Voilà. Mais ça vous empêche, enfin, ça ne doit pas vous empêcher de le considérer comme candidat. Vous avez le droit de considérer qui vous voulez comme candidat. On verra si ça se réalise ou pas. À quel point une dissolution en début d'année pourrait impacter les municipales, que ce soit la place dans le débat politique ou en fonction des résultats? Il faut se rendre compte d'un truc, c'est que S'il y a une dissolution bientôt, là, avec des élections législatives anticipées qui se tiennent en janvier ou en février, on ne peut pas faire les municipales en mars. Les services, les fonctionnaires de mairie et de préfecture ne sont pas du tout en mesure d'organiser les processus électoraux d'affilée d'une législative et d'une municipale. C'est juste pas possible. Donc ça veut dire qu'on repousse les municipales. Ce qui va être compliqué. Ils ont bien fait les européennes et les législatives l'année dernière. Oui, mais l'écart était plus important Ouais, j'allais dire c'était prévu, mais en fait non, la dissolution a été annoncée le soir du second tour. Je crois que ça a été très très dur à organiser pour les services, quoi. Pourquoi c'est pas possible, sinon ensemble municipal et législative? Alors moi, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas possible, en droit, d'organiser deux élections le même jour. Il y a des décrets de convocation des électeurs, etc., qui font que je crois que c'est pas possible. Ce qui est dommage, d'ailleurs, à titre personnel, je considère qu'on devrait voter plus souvent et tant qu'à faire plusieurs élections le même jour, mais ça, c'est un autre débat. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'une élection, c'est énormément de temps de travail, de préparation, de jus de cerveau de la part de fonctionnaires qui doivent tout préparer, tout organiser, la récolte des candidatures, leur certification, la présentation des candidats, l'organisation matérielle et logistique des bureaux de vote, la tenue des bureaux de vote, la mobilisation des fonctionnaires et des citoyens. Etc., etc. Toutes ces choses-là ne s'improvisent pas et sont très très difficiles à organiser. Le nombre de panneaux d'affichage s'il y avait deux élections en même temps. Bah tu vois, j'y avais même pas pensé, mais effectivement, c'est une difficulté. Je pense que c'est contournable comme difficulté. Mais oui, tu as raison. Je travaille dans une imprimerie, il faut tout imprimer aussi. Ah bah putain, c'est intéressant que tu en parles. Je me souviens avoir discuté avec des candidats aux élections législatives après la dissolution, qui m'ont dit qu'ils avaient téléphoné à des imprimeurs de leur département pour leur dire j'ai besoin de vous pour imprimer des tracts, des affiches, des machins. Et que l'imprimeur lui avait répondu, je vous arrête tout de suite, vous êtes genre la sixième candidate à me téléphoner, moi je peux pas. Voilà. Un carnet de commandes qui est rempli comme ça, je suis désolé, j'ai des clients, là vous prenez au dépourvu, vous avez besoin de gros volumes, et je peux pas. Donc, ouais, non, c'est pas simple, hein. Merci, petit dragon vert de rage. Pourquoi ne pas garder les papiers des années d'avant avec le nom des candidats pour le vote? Ben parce que les candidats changent. Et puis si t'as déjà mis un bulletin dans une urne et que tu veux le remettre l'année suivante, tu l'as plus puisque tu l'as mis dans l'urne la dernière fois. Ben non. Dématérialisé. Ah, on va pas refaire le débat. Hein. On va pas refaire le débat. On va encore s'engueuler dans le chat. En ce qui me concerne, je suis plutôt favorable à l'expérimentation du vote par Internet. Il y a des gens que ça hérisse à un point stratosphérique, donc je respecte les opinions divergentes. Voilà, pas grave. Bagarre. Chez moi, c'est vote électronique. Ouais, moi aussi, quand j'étais jeune, mes premiers votes, c'était sur des machines à voter. Après, je suis passé au bulletin classique quand j'ai déménagé, mais au début, ouais, machine à voter. Ça n'a pas très très bien marché, la machine à voter en France, hein. Je crois que tu as une soixantaine de communes qui ont acheté des machines à voter. À l'époque, on nous vendait ça comme la révolution, le vote de demain et tout. Bon, il y a quand même beaucoup qui ont préféré rester sur des bulletins papier. À Courbevoie, on a des machines à voter. Mais j'ai grandi à Courbevoie, moi. Moi, je suis un petit de Courbevoie, moi. Mes premiers votes, c'était à Courbevoie. D'ailleurs, il paraît que ça va être chaud pour la municipale à Courbevoie, j'ai appris ça. C'est pas sûr que Kossowski soit réélu. Pardon, excusez-moi, c'est alors. Oh là, les enjeux locaux. Est-ce que vous avez prévu des trucs dans Backseat pour faire la promo de l'inscription sur les listes électorales? Pas sûr que le gouvernement y pense. C'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Backseat n'est pas là pour inciter les gens à voter. Vous votez si vous voulez. Vous avez le droit d'être abstentionniste si vous préférez être abstentionniste. Pas de souci. Ça doit être moins rigolo, les dépouillements avec des machines à voter. Ah bah c'est plus simple, c'est sûr. Mais du coup, t'as besoin de moins de monde pour tenir le bureau de vote. Ah, ça a ses avantages, hein. Vous invitez quand un militaire à Backseat? Nous, on a des invités politiques à Backseat. Je vois pas pourquoi on inviterait un militaire là comme ça tout de suite maintenant. On verra en fonction de l'actualité. S'il y a une actualité qui le justifie, pourquoi pas? Les militaires, c'est pas politique. Bah, ils font pas de politique, en tout cas, les militaires, c'est pas leur rôle. Ils disent des choses très intéressantes sur des sujets qui les concernent, notamment la guerre. Mais ils font. Voilà. Je préfère recevoir un candidat à l'élection présidentielle qui va m'expliquer quel est son projet en matière de défense plutôt qu'un militaire. Pour une émission politique, ça se justifie davantage d'avoir le candidat. La politique n'est pas la continuité de la guerre par d'autres moyens. Après s'être fait piquer tous nos sous, allons-nous aussi devoir mourir pour Macron et ses acolytes? Mais qui est-ce qui t'a piqué tes sous? Mais faut que t'ailles au commissariat, faut porter plainte, il faut pas le dire sur Twitch, ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ballot, ça. Les militaires doivent faire du technique et sont subordonnés au pouvoir politique. Il ne leur appartient pas de donner d'avis ou d'opinion. Non, oui, enfin oui, non, je suis d'accord avec toi. Il ne leur revient pas de donner d'avis ou d'opinion d'ordre politique, mais pour ce qui les concerne et pour le métier qu'est le leur, ils ont quand même des choses à dire. Ils peuvent les dire. Je veux dire, un militaire, c'est pas inintéressant à interviewer. Ils ont quand même des choses à raconter dans leur domaine de compétences, évidemment. Il ne s'agit pas de sortir du truc. Je me verrais pas demander à un militaire, vous pensez qu'on doit faire la guerre à la Russie? C'est pas lui de répondre à ça, c'est pas. Voilà. Il pourra te dire s'il a un risque, s'il y a un risque, mais c'est tout. Oui, enfin, un militaire, il peut t'expliquer son travail déjà, il peut t'expliquer ce qu'il fait, il peut t'expliquer pourquoi il le fait, comment il le fait, quels sont les moyens dont il dispose, à quoi ça sert, la revue stratégique, on l'applique de telle manière, on se prépare avec des nouvelles menaces, etc. On est en train de travailler sur une nouvelle manière de faire les choses et tout. Enfin, un militaire, il a des choses à dire. Pas forcément des avis à donner sur tout, mais il y a quand même des choses à dire. Et heureusement. Est-ce qu'il y a des invités que tu as regrettés? Non, jamais. Non, jamais regretté d'inviter de Backseat. Des émissions plus ou moins bonnes, mais des invités, non. De toute façon, quand on invite un invité à Backseat, c'est toujours pour la même raison, c'est parce qu'on est curieux. On est curieux de ce que cette personne a à dire sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur ce qu'elle envisage, sur comment elle voit les choses, etc. À partir de là, c'est dur de pas être déçu, hein. C'est dur d'être déçu, je veux dire. Est-ce que tu as pensé un jour inviter des politiques, mais pas français? Oui, dans l'absolu, pourquoi pas, mais Backseat est une émission francophone. Hein. On ne fera pas d'émission en anglais, on ne fera pas d'émission en allemand. C'est pas. Voilà. Nature liche. Ah ouais, non, nature liche, hein. Quid de la plainte de France TV contre Bolloré? Bah rien. Je suis pas partie civile avec cette plainte. Verra ce qu'en dit la justice. Y a aussi les politiques européens et français. Oui, bien sûr, on en a reçu. La semaine prochaine, on reçoit une députée européenne. Chef de groupe au Parlement. On va recevoir un jour Raphaël Glucksmann, député européen. En plus, lui, il aime bien parler de l'Europe, donc vous serez servi. On avait reçu Marie-Pierre Vedren il y a quelques années. Le chat va être horrible quand Glucksmann sera invité. Bon, comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prononce des phrases avec lesquelles il n'est pas d'accord. Ça n'intimide pas les invités de lire le chat. Les invités, ils lisent pas le chat, ils n'ont pas le temps. Si, Cécile Duflot, elle a lu le chat. Elle voyait le chat par-dessus les chroniqueurs, mais les invités, ils n'ont pas le temps de lire le chat. Ils ont quatre personnes en face d'eux qui leur posent des questions. Ils n'ont pas le temps de lire le chat. T'as déjà eu honte de nous? Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'était quel invité? Je me souviens qu'il y avait un invité qui, à un moment, a été ému par quelque chose qu'il était en train de dire. Il était en train de raconter, je crois, un souvenir d'enfance, un truc comme ça. Un truc grave, genre qui fait intervenir la mort, un truc comme ça, et les larmes aux yeux et tout. Donc un moment un peu saisissant dans une interview. Et le chat était en mode full troll, à se foutre de sa gueule. Parce que c'était un homme politique probablement de droite ou du centre qui du coup ne plaisait pas au chat. Et du coup, rien n'est recevable de la part de cette personne. Et donc voilà. Mais je sais plus qui c'était. C'est l'overdose Glucksmann, là tout de suite, pas envie. Mais c'est intéressant. Elle va être intéressante cette présidentielle parce que Glucksmann génère une hystérie absolument stratosphérique chez les insoumis. Quand tu vois l'intensité de la réaction que provoque Raphaël Glucksmann chez les insoumis, il y a un truc intéressant derrière. À peu près similaire à ce que provoque Jean-Luc Mélenchon chez les macronistes, par exemple. Vraiment, c'est le diable en personne, c'est à se taper la tête contre les murs, tellement il est fou. D'accord, ok. C'est juste, ouais, vous avez un problème avec Mélenchon. Et donc voilà, donc non, 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 ouais, Raphaël Glucksmann, ça va être intéressant dans cette élection présidentielle, quoi. C'est quand la primaire PS, les modalités précises seront annoncées en décembre prochain. Glucksmann, intéressant, pas sûr. Il ne faut surtout pas que vous écoutiez des interviews d'hommes politiques que vous ne voulez pas écouter. C'est très très important. Si vous jugez qu'un homme politique est à jeter à la poubelle, que rien de ce qu'il a à dire n'est intéressant, n'écoutez pas des interviews de lui. Il y a un peu, parfois, le syndrome du personnage principal qui se manifeste chez des internautes qui considèrent que tout doit tourner autour d'eux, qu'ils sont le personnage principal d'Internet, et que donc un contenu qui ne leur est pas directement adressé est un mauvais contenu dans l'absolu, et qu'il faut le jeter par la fenêtre. Donc c'est vraiment mon conseil, notamment pour ce qui concerne Baxit. Baxit est un projet qui vous est proposé, mais qui ne vous est pas imposé. Si ça vous fait trop mal d'écouter quelqu'un, ne l'écoutez pas. Je vous en voudrais jamais pour ça. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ne regardent Baxit, parce que j'ai reçu des mails, il y a des gens qui ne regardent Baxit que quand l'invité est insoumis. Et seulement ces jours-là. Aucune autre émission Baxit, ils les regardent. Si c'est leur truc, ils ont raison de le faire. Je suis personne pour juger la méthode de consommation des émissions. Si vous voulez comprendre des points de vue différents, essayer de percuter, de saisir ce qu'a envie de dire une personnalité politique, etc., faites-le. Mais si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Et c'est tout aussi bien. Moi, je ne vous jugerai jamais pour vos habitudes de consommation de la politique sur Internet. Donc, si vous ne faites pas du mal, quoi. Vraiment, vous faites pas du mal. C'est trop, trop con. Et moi, je vois des commentaires sur YouTube parfois, il y a des interviews où tu dis, il y a des gens qui ont passé un sale moment là. De toute évidence, la colère qui s'exprime dans leurs commentaires montre qu'ils ont souffert en regardant la vidéo. Je me dis, mais putain, mais vous infligez jamais ça en fait. C'est super d'entendre les politiques avec qui tu es en désaccord. Oui, mais ça, c'est mon point de vue. Moi, je fais partie des gens qui préfèrent écouter des interviews de politiques avec lesquelles je suis pas d'accord. Ça m'intéresse vachement plus d'écouter ces interviews-là spécifiquement. Mais je veux pas imposer ma manière de penser aux autres. Et s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le même rapport que moi à la contradiction, eh ben c'est pas grave, ils ont le droit. Je vais pas empêcher les gens d'avoir envie d'écouter spécifiquement certaines personnes parler plus que d'autres, c'est normal. On a tous des attraits plus ou moins prononcés pour des choses. C'est comme écouter de la musique qu'on n'aime pas. Bon, bah, on a le droit de ne pas avoir envie d'en écouter beaucoup de cette musique-là. Sans être forcément. Voilà. Bon, bah, c'est pareil en politique. C'est le principe des bulles de filtre, c'est la raison principale qui explique qu'elles sont si difficiles à percer. En fait, moi, je questionne même l'utilité de percer les bulles de filtre. Les bulles de filtre, notamment en politique, elles existent pour une raison. Je n'en voudrais jamais à quelqu'un de se fabriquer un monde de coton, agréable, rassurant. C'est pas grave, en fait. Par contre, ce que ça a comme effet, les bulles de filtre, effectivement, c'est que des internautes, des personnes, sont extrêmement éloignés de l'opinion contraire, de l'opinion divergente, de l'opinion différente. En fait, ils ne l'entendent pas. Ça n'apparaît jamais dans leur feed, jamais dans leur YouTube, jamais dans leur Twitter, jamais dans leur Insta. Et du coup, ils débarquent sur mon chat pendant les QAG, et ils entendent pour la première fois un mec de droite parler. Et je me mets à leur place. Ils ont raison de se taper la tête contre les murs. Ils ont tellement pas l'habitude d'entendre la droite. Moi, ça fait 20 ans, j'entends la droite parler. Moi, ça va, je suis vacciné, je commence à connaître. Ça m'impressionne pas. Bon, bah, voilà. Mais je vous redis et je vous redirai toujours qu'il existe aussi d'autres personnes qui ont des bulles de filtre différentes et qui n'entendent jamais les insoumis parler. Moi, il y a des personnes, y compris parmi mes proches, quand ils me parlent de la France insoumise, j'ai l'impression qu'ils me décrivent Daesh, quoi. Putain, mais... S'il te plaît, non. Mais parce que pour eux, c'est Daesh. Pour eux, c'est une folie. La France insoumise, c'est une folie. C'est pas possible, c'est pas concevable, c'est pas pensable d'être insoumis. Bon. Écoute, c'est ta bulle de filtre. je suis pas dedans. Marie Insoumise, je me les coltine depuis un bout de temps. Attends, je commence à connaître. Non, je me tape pas la tête contre les murs à chaque fois que j'entends la France Insoumise parler, non. Non, non. Ils ont leur cohérence, ils ont leurs idées, ils ont leurs pensées. Ils ont leur efficacité aussi. Bon. Leurs incohérences aussi. Oui, comme tout le monde, et c'est très bien. Enfin, c'est pas le bout du monde. Pas très grave. Il y a quoi à l'extrême gauche de LFI? sais pas si c'est une vraie question ou si c'est pour rigoler, mais je vais y répondre au premier degré. À l'extrême gauche d'LFI, il y a une galaxie. Il y a une énorme galaxie qui s'appelle l'extrême gauche française, qui est composée d'une foultitude d'organisations différentes, partisanes, associatives, internationales, syndicales. Il y a des, c'est une fourmilière, ça débat et ça s'engueule en permanence, ça discute tout le temps, il se passe beaucoup de choses à l'extrême gauche. Il y a des journalistes spécialisés dans le suivi de la vie de l'extrême gauche tellement c'est complexe. Voilà, c'est voilà. Alors, l'extrême gauche en France fait pas des très très bons scores aux élections. Ça tombe bien, ils sont en grande partie critiques des élections. Ça fait partie de leur truc, mais peu importe. Mais c'est pas parce qu'ils font pas des bons scores aux élections qu'ils n'existent pas. Donc voilà. Le score du NPA est OK. Ouais, le score du PS aussi. Pardon, hein, mais enfin, moi je veux bien. Je veux bien être généreux, mais. Et du coup, il y a une galaxie d'extrême droite? Oui, absolument. Vous et moi, qui en sommes relativement éloignés, je le suppose, on ne voit, on ne perçoit de l'extrême droite que sa partie la plus émergée, la plus visible de l'iceberg, avec les partis politiques notamment, que sont le Rassemblement national et Reconquête. Mais l'extrême droite, c'est une galaxie. Aussi, il y a beaucoup d'organisations, il y a des publications, des journaux, des associations, il y a des gens qui se tirent dans les pattes en permanence, il y a des options stratégiques et politiques qui ne sont pas les mêmes. Les nationalistes révolutionnaires, ce n'est pas les mêmes que le Rassemblement national, qui n'est pas le même que Reconquête, qui n'est pas le même que les royalistes, qui n'est pas le même que. Il y a plein de gens, il y a plein de trucs, il y a plein de. Il se passe beaucoup de choses, ça évolue vite, etc. Ils ont des groupes locaux en plus, très, très, très bien structurés, il se passe beaucoup de choses, machin. Donc, non, oui, l'extrême droite, là aussi, il y a des journalistes spécialisés dans le traitement de l'extrême droite française. Vous les retrouverez chez Street Press, chez Libération avec la newsletter Frontale, qui font un excellent travail de documentation, etc., pour suivre l'évolution de cette nébuleuse très importante. Mais de la même manière. Enfin. Là aussi, et ça pour le coup, j'ai pas envie de vous. Je veux jamais vous enjoindre à faire quoi que ce soit ou à penser quoi que ce soit, mais dans l'amour de la subtilité, c'est intéressant aussi de lire et de comprendre, d'essayer à minima de comprendre les subtilités qui peuvent exister dans un camp qui est très éloigné du nôtre. De la même manière que j'ai une curiosité pour l'extrême gauche et ses différentes débats stratégiques qui sont très intéressants, qui sont très très propres à l'extrême gauche avec un jargon et tout très spécifique. Mais l'extrême droite aussi, c'est assez intéressant de voir comment elle évolue, comment elle bouge, comment elle se structure, comment elle s'organise, comment beaucoup de choses changent, quoi. On dirait presque que l'extrême gauche t'agace plus que l'extrême droite. Pourquoi j'ai été agacé par l'extrême gauche? J'ai jamais été agacé par l'extrême gauche. Alors pardon, je sais faire la différence quand même entre l'extrême droite et l'extrême gauche, je sais avec qui je me battrai contre qui. Voilà. Il n'y a pas pire intellectuellement que de tout mettre dans le même panier. Oui. Et encore, je ne veux pas en vouloir aux gens, parce qu'encore une fois, moi, c'est ma vie, c'est mon métier de lire et de comprendre la politique dans sa subtilité, sa complexité, etc. Je ne vais pas en vouloir à des gens qui n'ont pas le temps ou dont c'est pas l'activité professionnelle. De faire des catégorisations un peu plus souples que les miennes. Ils ont le droit, c'est pas grave. T'as le droit de faire un grand sac et de mettre un peu tout le monde dedans, ça va m'énerver, mais vas-y, enfin, si ça t'aide à dormir, tu peux, quoi. Il aime bien taquiner l'extrême gauche parce qu'il y en a plus ici avec des bonnes œillères parfois. Ouais, et en plus c'est marrant parce que moi je fais toujours la différence entre les gens de la vraie vie et les gens d'Internet parce que si sur Internet on peut avoir des postures très droites, très radicales, très catégorielles, etc., les gens que tu rencontres dans la vraie vie sont beaucoup plus mesurés et en général beaucoup plus lucides. Les gens d'extrême gauche que je rencontre ici sont adorables d'une part. Très bien formé intellectuellement et culturellement, et parfaitement lucide sur le fait que l'extrême gauche, ça représente que dalle. Vraiment, ils savent très très bien que tout ça, c'est des engueulades entre nous, histoire de dire, mais la réalité, c'est qu'on sait très très bien qu'on est loin derrière et que voilà, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est aussi la beauté du combat politique, on n'attend pas d'être majoritaire pour se battre. Bon, bah voilà. Abattre le capitalisme, c'est un projet à long terme. Ouais, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Comment tu expliques la différence avec le chat? Mais non, mais un chat Twitch, c'est pas un lieu d'expression comme les autres. Un chat Twitch, c'est contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très limité. Faut pondre un message en deux lignes, faut essayer d'être percutant si tu veux que le streamer te lise. Donc forcément que ça appauvrit, forcément que ça réduit, forcément que ça te donne pas à voir toute la subtilité d'une pensée en un seul message. Et c'est normal, c'est comme ça que ça marche en fait. Donc forcément que quand je discute avec vous dans le chat, je me rends bien compte que vous ne pouvez pas exprimer toute cette subtilité. Mais quand je vous rencontre dans la vraie vie et qu'on boit des coups ensemble après Backseat, vous avez une pensée qui est évidemment plus. Elle n'est pas meilleure, elle s'exprime juste pas pareil. On est face à face, on a une bière dans la main, forcément, on a le temps de parler. Donc on discute et tu te rends compte que c'est plus subtil que ça, plus complexe, plus machin. On est limité, on est gentil. Vous êtes limité. Vous êtes limité en espace. Ouais. Par contre, vous n'êtes pas limité en carte bleue pour vous abonner à ma chaîne. Ça, c'est. Non, j'ai pas de fin à cette phrase. Mais vous avez compris le. Fatigué aussi. Merci, Darkmeu. Attention au relativisme et à tout ce veau. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Merci Gao Fushai. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat, dis donc. C'est moult généreux. Merci Biologie Sucks. Merci, Ruyo. C'est pareil avec les politiques aussi, pour avoir déjà parlé avec des élus de droite comme de gauche, c'est souvent bien plus facile. Merci, Anonymous Gifter, pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup. C'est très généreux, merci. C'est souvent bien plus facile d'avoir une discussion claire quand on prend vraiment le temps de parler. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut pas, enfin, il faut pas balayer d'un revers de main tout l'apport que peut avoir un chat Twitch. Enfin, moi, en même temps, c'est mon métier. Et puis surtout, j'adore ça. J'adore discuter avec vous. J'adore discuter avec le chat. J'adore qu'on soit pas d'accord. J'adore qu'on discute, qu'on essaie de se comprendre et tout. Moi, je trouve ça très, très cool. Il faut pas balayer d'un revers de main ça. Faut pas balayer d'un revers de main Twitter non plus. Ça a ses limites, évidemment. Ça a ses fonctionnements. Ça a ses particularismes. Mais c'est pas moins bien qu'un débat oral dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, quoi. Les gens sont plus hypocrites dans la vraie vie aussi. Bah, soit ils sont plus hypocrites dans la vraie vie, soit c'est des connards sur Internet. Parce que tu as aussi ce phénomène-là. Je veux dire, c'est facile d'insulter quelqu'un sur Internet. C'est un chouïa plus difficile quand tu es en face. Quelle que soit la personne. Tu as un être humain en face de toi, c'est pas facile de l'insulter. Merci Tifok. Et donc, quand tu as des désaccords politiques, ça dépend du niveau de désaccord, mais tu les exprimes pas de la même manière sur Internet et dans la vraie vie. Merci, Mefcat. Et encore une fois, je n'hiérarchise pas les deux. Je ne dis pas que dans la vraie vie, c'est mieux que sur Internet. C'est juste que c'est pas pareil. C'est pas le même espace, pas la même dialectique, c'est pas le même. Voilà, c'est pas grave. On peut aussi se permettre d'avoir différents espaces. Internet, ça libère la parole, toutes les paroles. Moi, j'ai toujours défendu Internet comme étant un outil pour le meilleur comme pour le pire. Internet, ça permet les printemps arabes. Internet, ça permet aussi la pédocriminalité organisée. C'est moche, mais les deux phrases sont vraies. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on jette tout à la poubelle? Est-ce qu'on encense tout? Bah non, on essaye d'être un peu plus malin que ça. Et c'est comme, enfin, c'est encore une fois pour plaider pour ma paroisse, évidemment, mais c'est comme Twitch, voilà. Twitch, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Twitch, vous pouvez créer des communautés de cohérence idéologique, de ricanement, de cyberharcèlement, etc. Bon, bah, vous pouvez aussi essayer de créer des chaînes dans lesquelles on va essayer de se coltiner à la difficulté de l'altérité. Merci, Sleeve. Je veux dire, c'est pas naturellement bon, Twitch. Ça peut être plein de choses, Twitch. Merci Arnaud. Ça tend à disparaître. De quoi, Twitch? Tu trouves? Non. C'est moi où l'extrême droite n'a pas vraiment de discussion politique sur Twitch. Bah, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que récemment, j'en parlais avec un journaliste, on parlait de Twitch. D'ailleurs, demain, je serai interviewé par la radio-télévision suisse pour parler de Twitch. J'en parlais avec un journaliste et je lui disais que, en fait, je suis étonné que l'extrême droite ne soit pas plus présente sur Twitch. Sous-entendu, je vois pas, il n'y a pas de raison particulière qui justifie le fait que la gauche soit plus présente que l'extrême droite sur Twitch. Et pourtant, tu as deux choses quand même qui peuvent expliquer ça. Le premier, c'est que les gens d'extrême droite sur Twitch ne parlent pas de politique. Ils font autre chose. C'est la gauche qui adore parler de politique, mais l'extrême droite, c'est pas toujours leur. Voilà. Donc il y a des streamers d'extrême droite qui jouent aux jeux vidéo. Voilà. Et des fois, tu te rends compte qu'ils sont d'extrême droite quand tu as des saillies, quand ils racontent des trucs, etc. Tu dis, oui, d'accord, mais ça, c'est bon, on a compris. Mais en fait, son objet sur Twitch n'est pas la politique. La deuxième raison pour laquelle l'extrême droite est assez peu présente sur Twitch, je crois, c'est que Twitch est une plateforme de conversation d'abord et avant tout. Le dispositif et la grammaire du stream, c'est le dialogue. C'est ce que je suis en train de faire, c'est de discuter avec des gens. Et ça, extrême droite, c'est pas trop son truc. Ontologiquement, dans son fonctionnement, dans son idéologie, dans sa pensée, dans son fantasme d'une société bien organisée et bien ordonnée, on n'est pas dans un forum permanent de papotage et de démocratie participative. Pas trop ça, l'extrême droite. Ça a jamais été son vocabulaire, ça a jamais été son truc et tout. La gauche, beaucoup plus. Pas toute la gauche, mais la dialectique, la discussion, l'engueulade, la parole. C'est un truc que tu retrouves beaucoup plus à l'extrême gauche, quoi. Ou à la gauche tout court. L'extrême droite préfère bizarrement les médias descendants. Bah, c'est un peu ça, en fait. L'extrême droite, la télévision et la radio, ça lui convient. Fondamentalement, ça lui convient. C'est vertical, descendant. Twitch, bah, c'est conversationnel, c'est horizontal, l'extrême droite, elle est moins à l'aise. Les streams d'extrême droite sont sur YouTube. YouTube est une plateforme pratique pour l'extrême droite, pour la même raison. Oui, YouTube, quand t'es d'extrême droite, ça a du sens. Twitch, je trouve, c'est plus difficile. Après, attention, hein, on pourrait être surpris. Voilà, on pourrait être surpris. On pourrait voir débarquer à l'avenir des grosses chaînes. Quand je dis grosses, c'est en audience d'extrême droite sur Twitch. Sais pas, une chaîne de campagne pour Bardella ou je sais pas quoi. Donc ouais. Donc à voir comment tout ça se développe dans le cadre de la campagne présidentielle. Je vais m'arrêter là, les copains. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On va faire un raid. On va faire un raid. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été avec moi dans ce stream. Merci d'avoir discuté de manière horizontale et participative, n'est-ce pas, bande d'affreux gauchistes qui aimaient la dialectique? Vous êtes chiants avec ça, putain. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous et on se retrouve peut-être ce week-end pour du stream détente. Peut-être pas, on verra. Merci d'être venu. Je vous envoie en raid chez Hugo Lisoire, qui est en train de jouer à Star Citizen, évidemment. Voilà, je vous envoie en raid chez lui. Passez une bonne soirée. Merci les copains. À tout. Ciao, ciao. Merci Jo. Merci beaucoup Jo.
Avec mon vaisseau docké à l'intérieur du Perseus, ça c'était tellement stylé.
Putain, mais Hugo, il va faire la même connerie, non?
Quoi?
Ah non, c'est bon.
Non, non.